Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir, bonsoir le public incroyable. Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver dans cette émission extraordinaire. Bonsoir, merci d'être là. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en direct sur Twitch. Bonjour à vous si vous nous regardez en replay sur YouTube. Et bonjour à vous si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi sur Twitch en direct. Bonsoir le chat, vous êtes en face de nous, vous êtes avec nous. Le public vous voit aussi. Vous êtes magnifique, bienvenue. On va parler de politique ce soir. On a une programmation assez chouette. En invité de la semaine, en première partie d'émission, on a décidé qu'on allait discuter de chirurgie esthétique et de réseaux sociaux avec deux journalistes qui ont sorti un bouquin il y a seulement 15 jours sur le sujet. Elles viendront nous en parler. Et en deuxième partie d'émission, notre invitée politique de la semaine, ce sera Naïma Moutchou, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a eu une actualité, pas plus tard qu'aujourd'hui, particulièrement intéressante à l'Assemblée nationale. Vous retrouverez évidemment vos chroniques préférées également avec le PowerPoint de Vincent et la vie d'Adèle. Ce soir, pour cette émission, je suis entouré des meilleurs et des plus forts et des plus fortes. Je suis avec Chloé, donc. Salut Chloé.
Salut.
Ça va?
Voilà. Bah, super bien.
Très heureux de t'avoir à nouveau sur le plateau. Chloé, tu es haute fonctionnaire, tu es co-directrice de l'Institut Rousseau, qui est un think tank de gauche écolo.
Ouais.
T'es cofondatrice également de l'association qui s'appelle Mieux Voter,
ouais,
et qui promeut le jugement majoritaire.
Et ouais, vous en avez parlé la semaine dernière sans
moi. Mais c'est pas nous qu'on en a parlé, c'est Jérôme Guedj, notre invité de la semaine dernière,
qui a dit... agréablement surprise.
Mais oui, que la primaire de la NUPES en 2027...
C'était au jugement majoritaire, rebelote.
Si ça, ça serait sûrement au jugement majoritaire. Qu'est-ce que c'est donc le jugement majoritaire ?
Le jugement majoritaire, c'est une toute autre façon de voter. C'est un nouveau mode de scrutin qui est issu de la recherche française, qui a été inventé par deux directeurs de recherche au CNRS en 2007. Et plutôt que de nous demander de choisir un candidat, aujourd'hui on vote en choisissant un candidat parmi X candidats. Avec le jugement majoritaire, on évalue tous les candidats, on donne son avis sur tous les candidats en leur attribuant une mention sur une échelle de valeur, donc qui va de excellent à rejeté, donc excellent, très bien, bien, etc. Et c'est le candidat le mieux évalué par une majorité qui remporte l'élection.
Et la primaire populaire s'en était servie. Hein.
Et la Exactement. Primaire populaire s'en était servie. Et pour une primaire, ça fait sens parce que qu'est-ce que produit le mode de scrutin qu'on a actuellement ? Il nous force à choisir, il nous force parfois à voter utile. Et dans le cadre d'une primaire où, a priori, les électeurs, ils apprécient plusieurs candidats, ouais, ça n'a pas de sens de leur demander de choisir un plutôt que l'autre, mais ça a beaucoup de sens, en revanche, de leur demander de les évaluer. Et a priori, ils les évalueraient tous plutôt bien. Et ça évite de créer des camps l'un contre l'autre. Donc voilà, ça fait vraiment sens dans le cadre d'une primaire.
Il y a quelqu'un qui dit tu peux voter plus pour ton candidat et moins pour les autres. Tu peux.
Tu peux.
Si tu veux, si c'est ta manière. Il n'y a aucun problème. Tu peux dire ils sont tous nuls sauf lui ou elle. Tu peux. Tu peux aussi dire ils sont tous géniaux.
Exactement.
Tu peux,
et tu peux nuancer en disant qu'il y en a un qui est plus génial que l'autre, mais après tout, je les aime tous. Voilà.
Donc voilà, on en reparlera de cette primaire de la NUPES si elle existe. On verra. Ce sera marrant. Avec nous aussi, Malek. Salut Malek.
Salut tout le monde. Salut le chat.
Ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau de Backseat,
ouais,
Malek.
Super content parce qu'au moment où tu as dit mon prénom, il y a quelqu'un dans le chat qui a parlé de mon ancien lycée. Donc c'est-à-dire que j'ai quelqu'un de mon ancien lycée qui est en train de me regarder.
Arrête, c'est quoi ton ancien
et
lycée?
C'est ouf. Le lycée Romain Rolland à Argenteuil.
Et on passe un gros big up à tous
on
les
passe
lycéens.
Un big up à tout le monde. Comment tu vas, Jean?
Bah écoute, ça va et toi?
Bah moi je suis là, donc ça va.
Bah écoute Malek, toi t'es conseiller en communication politique, yes, ancien chroniqueur dans Touche pas à mon poste.
Exactement, et balance ton poste.
Et balance ton poste, ouais. C'est quoi ton actu à toi?
J'arrive, j'en ai parlé la dernière fois dans Backseat.
Ah, t'as teasé?
J'ai eu plein de textos.
Allez.
Et on arrive vraiment bientôt sur internet, sur YouTube. Allez, je balance tout. On va faire des discussions avec des gens intéressants, des artistes intéressants. Et ça va être très simple.
Mais c'est une exclu, ça, t'en avais jamais parlé.
J'en ai jamais parlé.
Allez, ça
et
fait plaisir.
Mon coprod va me défoncer, mais c'est pas grave. Il m'a déjà défoncé au début du mois de février, mais c'est pas grave.
Eh ben, écoute, très heureux que tu débarques sur YouTube, Malek, pour faire des trucs cool. Ça fait plaisir. Avec nous aussi, Léa. Salut, Léa.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Ça va.
Léa, podcasteuse.
C'est ça, toujours.
Tu fais notamment le podcast Popol, qui parle d'actualité politique avec des femmes.
Mm-hmm.
Comment ça va, toi?
Eh bien, écoutez, ça va pas mal. Pas mal de projets en cours.
Ah ouais? Des trucs dont tu peux parler ou...
Oui. Je suis en train de travailler sur un deuxième livre.
Allez.
Où ça parlera sans trop de surprises de féminisme et de politique.
D'accord.
Histoire, je suis un peu monomaniaque
en ce moment.
Parce
que le premier parlait des femmes en politique.
Changera.
Du coup, le deuxième parlera de quoi?
Du féminisme en tant que véritable projet politique.
Ah, ok, d'accord.
Voilà. Je vous laisse la surprise, ce sera pas avant l'année prochaine dans tous les cas. Et entre-temps, il y a le poche du premier qui est sorti aujourd'hui.
Ah,
oh,
je peux le jeter dans le public ou pas?
Ah ouais, vas-y.
Cool.
Attends, en vrai, on va en parler d'abord de File-le-moi. Donc, plus de femmes en politique, le livre. Ah bah, on regarde, en plus, on a la couverture. Incroyable.
Wow.
C'est aux éditions Pocket. Et c'est sorti en poche, ça y est, pour la modique somme de
8 euros.
8 balles.
Chez vos libraires préférés.
Et bah écoute, c'est trop trop cool. Bah tiens, offre-le à qui tu veux, effectivement.
Hop. Alors je le lance, je vais essayer de pas shooter une caméra au passage.
Ouais, si t'y arrives.
C'est comme les bouquets au mariage.
Ah oui, du coup, j'avoue, j'ai fait du honte. Mais...
Celui qui reçoit écrira un livre dans l'année qui vient.
Oui, exactement.
Les fleurs pour le mariage, il se mariera dans l'année qui vient.
Vas-y, à l'envers.
Vas-y, à l'envers.
Et je vous le signe, celui ou celle qui le chope, je vous le signe à la fin.
La régie en PLS.
Allez, je regarde ça.
Let's go, let's go. Il l'a eu, incroyable. Il a gagné un livre. Il a perdu un œil. Formidable. Et bah trop cool. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que sur France Info cette semaine, ils ont fait un plateau avec toi.
J'ai embarqué Sacha. Ouais.
Bon, on parlait de foot.
J'étais faut appeler Sacha.
Ils étaient là, vas-y,
let's go. Donc du coup, il y a une espèce de reconstitution de Blackseed sur France Info. C'est pas du tout la même ambiance, hein, je vous garde.
Non mais en fait, je l'ai pas vu.
Ça n'a rien à voir.
Vous avez raconté des conneries.
Ah bah non, pas du tout.
Ah non, c'est ça. Vous avez été
sérieux. Moi, j'ai juste fait une petite sortie de route à un moment donné en faisant un parallèle entre Le Graët et Abad. Ça a pas plu aux journalistes.
Ouais, c'est pas pareil, oui.
Bah, il y avait le VP de Renaissance en face de moi, donc du coup...
La pêche était...
Pour moi, ça avait un peu du sens. Et il parlait d'exemplarité, à ce degré de responsabilité, tout ça. Et moi, j'étais là, OK.
Mais tu vois, ça fait toujours très plaisir de voir les chroniqueurs et chroniqueuses dans d'autres médias. Mais tenez-vous bien.
On a fait les photos, tout ça. Le lobby backseat, comme a dit Sacha.
Le lobby backseat, exactement. Alors, chers amis, cette semaine, dans les sujets de la semaine, on va parler de choses absolument fascinantes. C'est parti pour les sujets de la semaine. Incroyable, merci le public. Sujet dont on voulait parler avec vous cette semaine, chers amis, on voulait parler du service national universel. Pourquoi vous vous marrez? On peut être sérieux 2 minutes dans cette émission, s'il vous plaît? Le service national universel, c'est un dispositif qui avait été promis par Emmanuel Macron en 2017 et qui consiste à proposer un parcours d'engagement à des jeunes en leur proposant notamment ce qu'ils appellent un stage de cohésion de plusieurs jours, encadré par des animateurs professionnels dans un lieu dans lequel les jeunes sont hébergés en plus de là où ils ont leurs activités. Il y a une dimension militaire à ce parcours de cohésion, à ce séjour de cohésion, mais il n'y a pas que ça. Et le service national universel était donc une idée proposée par Emmanuel Macron qu'il a mise en œuvre au cours de son premier quinquennat dans l'idée d'en faire un outil pour renforcer les valeurs de la République auprès des jeunes, leur permettre de découvrir l'engagement, le bénévolat, le monde associatif, etc. Le service national universel a été mis en place au cours du premier quinquennat. Il a été expérimenté dans quelques départements, puis a été élargi à tous les départements. Donc maintenant, tous les jeunes qui le souhaitent, sur la base du volontariat, peuvent avoir accès et faire un service national universel. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que l'on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, a le souhait, il l'avait dit dans sa campagne présidentielle de réélection, de généraliser le dispositif. Donc que ce dispositif ne concerne plus 40 ou 50 000 jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui chaque année, mais qu'on aille vers toute une classe d'âge chaque année, donc 800 000 jeunes qui pourraient participer à ce dispositif. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron a décidé de décaler à plus tard les annonces qu'il devait faire sur les modalités de cette généralisation qu'il appelait de ses vœux, en attendant notamment que passe la fronde de la réforme des retraites. Et il y a des journalistes du journal Politis qui ont sorti un article cette semaine, puisqu'ils ont réussi à mettre la main sur un document de travail interne au ministère de la Jeunesse, présentant des pistes de ce qui allait être a priori présenté bientôt par le président de la République. Voilà pourquoi c'est dans l'actu. Voilà pour cette présentation du service national universel. Vous êtes incroyablement beaux et belles tous
beaucoup.
Les trois.
Oui, chef. Discipline.
Discipline.
Engagement.
Est-ce qu'on t'appelle Jean ou chef? C'est ça la question.
Adjudant.
Adjudant.
Non, l'adjudant, c'est l'alcoolique. C'est Jean. Je sais jamais.
Quoi, c'est l'alcoolique.
Oh, ça va. Mais non, c'est dans le sketch de.
Est-ce qu'il y a la vidéo là qu'on.
Alors oui,
Est-ce qu'on va avoir la chance de regarder cette petite.
Bouge pas, je vais l'envoyer la vidéo. Parce que donc, du coup, quand je continue à contextualiser ce dont on parle.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit adjugeant, c'est pas mal ça.
Adjugeant. Ah ouais, adjugeant. Ah, ouais,
c'est pas
mal. Adjugeant, ça passe. Garde à vous pour tout le monde et tout, par contre. Valeur de la République, tout ça, ça rigole pas.
Notre chat a du talent.
Qu'est-ce que je voulais dire?
Pardon.
Oui, donc au moment où on a parlé, au moment où Politis a sorti son article, ça a été l'occasion de reparler du SNU. Une question au gouvernement a été posée à l'occasion d'un stream de la chaîne Twitch de Jean Massier. Abonnez-vous. Il y a eu également des tribunes et des articles qui sont sortis dans les journaux, notamment dans Libération. Et il y a une vidéo qui est sortie qui a beaucoup tourné. Je vous propose qu'on en regarde un extrait. Voilà à quoi ça ressemble le séjour de cohésion du SNU.
À mon commandement, garde à vous. En avant.
C'est tellement cringe, les gars.
Attends, c'est mis encore après.
La rigueur.
Oh non, on a décidé qu'on allait s'arrêter là.
Ah oh non
que, mais on n'a pas les droits
et
de
la, et la danse ouais.
Non, c'était pas une danse, ce sont des exercices de karaté au cri de SNU, SNU, ouais. Tout ça.
À ne pas reproduire chez soi tout seul.
On a aussi vu des vidéos où les jeunes dansaient, je sais pas comment on peut qualifier cette danse, mais la Zumba.
En uniforme SNU.
Ouais, ouais, vous pouvez aller voir ça sur Twitter si vous êtes curieux.
C'est
ça vaut son pesant.
On va pas y aller.
C'est le scout d'Europe quand même un peu.
On va pas y aller par quatre chemins, les amis. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler en live sur ma chaîne. Moi, je ne peux pas avoir de neutralité sur ce sujet. Je suis radicalement opposé à la généralisation et surtout au caractère obligatoire du SNU. Je n'ai rien contre le dispositif en l'état, sauf que ce que vous venez de voir et la méthodologie et l'idée même de le rendre obligatoire va à l'encontre de l'idée philosophique qui sous-tend la création de ma chaîne et de cette émission, etc. Donc, je suis opposé à un caractère obligatoire, quelles que soient les modalités d'obligation du SNU. Mais une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une analyse politique sur ce dispositif, ce qu'il dit, d'où il vient, comment il s'articule, etc. Qui veut se lancer? Chloé?
Allez, alors le SNU, déjà, c'est quoi? C'est un séjour de cohésion de 12 jours. Et c'est une mission d'intérêt général de 84 heures. C'est bizarre de présenter comme ça. 84 heures,
c'est très précis.
Et après, vous pouvez poursuivre votre engagement pour 3 mois minimum. Mais le SNU, pour valider ce qu'on appelle le SNU, c'est ça. Et on entend beaucoup de choses sur ce SNU. On dit que ça va contribuer à l'autonomie des jeunes, à leur engagement, que ça va favoriser la mixité sociale. Mais sur l'ensemble de ces points, on peut trouver de la nuance et je pèse mes mots. D'abord, sur la mixité sociale, c'est sûr que ce n'est pas en 12 jours de séjour de cohésion qu'on va régler ce problème. C'est vrai que c'est un vrai problème en France, la mixité sociale. C'est-à-dire que c'est un problème qui est territorial. Il y a un phénomène de ghettoisation territoriale dans notre pays, une forme de séparatisme avec des riches qui sont, pour faire vite, concentrés dans des métropoles. À Paris, les professions intellectuelles supérieures et les cadres, c'était 24% de la population en 1980. Aujourd'hui, c'est 46%. Donc la proportion de cadres à Paris a doublé. Et c'est la même chose dans toutes les autres métropoles, Toulouse, Lyon, Strasbourg, etc. Et donc c'est un problème, le problème de ghettoisation territoriale, de ghettoisation sociale, qui est énorme et qui produit des phénomènes de ghettoisation scolaire, parce qu'il y a une carte scolaire et donc le phénomène territorial se déverse dans un phénomène scolaire. Et donc moi j'ai l'impression que le SNU en réalité essaie de pallier à un échec qui est celui de l'école. Pour favoriser la mixité,
d'accord,
mais aussi pour favoriser l'engagement citoyen. Parce que dans le cadre de ce SNU, il y a beaucoup d'éducation civique. On dit qu'il y a des formations contre les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales et tout. Mais normalement, ça, c'est censé être couvert en cours d'éducation civique.
Donc, l'ambition politique qui est de créer plus de mixité sociale n'est pas, selon toi, quelque chose de mauvais. En revanche, c'est
pas
un...
Pas mauvais du tout.
C'est
pas avec le SNU qu'on va
régler
ce problème.
D'accord, OK. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une cuillère d'eau la mer, je sais plus comment on dit. Mais d'accord, OK. Donc, j'entends ce que tu dis. Il y a un problème grave de mixité et de ghettoisation géographique, etc. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te font remarquer « Ouais, mais le service militaire, c'était bien parce qu'il y avait du brassage social dans les casernes. Ça permettait à un Breton, à un mec du Nord, à un mec du Pays d'Oc, etc., de se retrouver et de faire le service ensemble. Ça créait de la République.
Bah, » je réponds que c'était bien, mais je réponds qu'on ne va pas revenir à un service militaire qui durait... un an, je crois.
Une conscription.
Tu vois, on ne va pas revenir à ça. Et donc, on revient à un modèle où là, on propose 12 jours, mais même si on proposait 6 mois, ce n'est pas ça qui va régler le problème de la mixité sociale en France, qui dure toute la vie des gens. Ce qu'il faut faire, c'est des questions d'aménagement du territoire. On peut essayer aussi de jouer sur la carte scolaire.
Alors, on va en parler avec Malek, effectivement, qui voulait intervenir là-dessus. La mixité sociale, la mixité territoriale, toi aussi, tu y es favorable.
Oui.
Le SNU, il participe ou pas ?
Absolument pas. Quand j'étais collab parlementaire avec un ancien patron, on s'était inspiré de quelque chose qui se fait dans les autres pays, qui est contre la carte scolaire et qui s'appelle le busing. En gros, c'est au lieu d'aller dans l'école du coin, on prend le bus pour aller dans le quartier d'à côté pour favoriser justement cette mixité territoriale et mixité sociale. Ça marche très bien ailleurs, mais jamais la France a voulu y penser. Moi, je dis à chaque fois que chacun son boulot. À l'éducation populaire de faire son boulot, à l'école de faire son boulot, et donc mettons donc l'oseille, la thune, puisqu'il n'y a que ça de vrai, dans l'éducation populaire et dans l'école, et donnons les moyens à chacun de d'accomplir sa mission.
Ce qu'on appelle éducation populaire, pour préciser le jargon qu'on utilise, c'est tout ce domaine d'intervention du secteur, notamment associatif, mais aussi des collectivités, autour de l'animation pour la jeunesse en dehors du temps scolaire.
C'est ça.
Donc ça va être des séjours de vacances pour les enfants qui ne peuvent pas aller en vacances, ça va être de l'accès à la culture pour des enfants qui n'ont pas forcément les moyens. Ça va être... en fait, c'est beaucoup le secteur de ce qu'on appelle l'animation. Et
c'est
on va
ça.
Retrouver ça partout, le centre aéré, le club de foot, le sport, etc.
Et ce qu'il faut dire, c'est que quand ces assos-là ont les moyens, ça marche, ça fonctionne. On le voit dans... Enfin, moi, j'ai Argenteuil, j'ai grandi avec ça. Je remercie d'ailleurs tous les éducateurs qui nous ont accompagnés quand on était gamins, parce que sinon, on aurait pu se perdre. Mettons les moyens, c'est juste ça. Et tout le monde est dans un petit kiff de remilitariser le pays, pardon, j'y suis arrivé. La journée d'appel, la JAPD qu'on fait tous, elle ne sert à rien. Ils se sont dit comment on va essayer de vendre un petit peu l'ordre et l'autorité autrement. Bah voilà, le SNU. Bah franchement, j'ai eu le débat avec Sarah El Haïry.
La ministre chargée de la jeunesse, secrétaire d'État chargée de la jeunesse.
Elle sait que je suis farouchement contre. Donc voilà, elle m'a dit qu'un jour on en parlerait. D'ailleurs, je vais juste proposer un truc au chat, vu que j'ai une très belle casquette. Si le chat le veut, et seulement si le chat le veut, je propose d'envoyer par texto une photo de moi avec cette casquette à Sarah El Haïry pendant l'émission.
T'es
mais
obligé.
Seulement si le chat le demande.
Le chat va dire non, c'est sûr.
Toi, tu sais bien comment ça marche, un chat. Hein. Ça se voit. Hein.
Tu vois, ils sont tous contre.
Léa, est-ce qu'il existe des expériences à l'étranger dont le SNU s'inspire et qui montrent que ça marche ?
Alors, j'ai fait un petit tour d'Europe, Jean, pour préparer cette émission. Non, en fait, non. Non, il n'y a pas. Il y a un truc qui serait obligatoire, c'est le service militaire, qui existe encore dans quelques pays, à savoir la Finlande, la Grèce, le Danemark, l'Autriche, la Norvège, Chypre, etc. Sur le principe même du SNU, qui est en fait d'essayer de créer une espèce de sentiment d'appartenance à la nation, parce qu'il y a beaucoup de ça quand même, hein, le coup de te faire lever à 6h30 du mat pour aller chanter devant le drapeau la Marseillaise, enfin vraiment le côté très
républicain,
républicain.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué dans plus que le côté militaire à mon sens hein, dans la proposition en tout cas du SNU. Mais moi ce que je trouve un peu dommage c'est qu'en fait si l'on veut vraiment donner un sentiment d'appartenance à la société, je pense qu'il faut fondamentalement lutter contre les discriminations, lutter contre les inégalités, faire en sorte que finalement tout le monde ait les mêmes conditions pour avoir les mêmes chances. Et là, peut-être qu'on aura envie en fait de faire partie intégrante de cette société. Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est que finalement, les jeunes sont quand même un peu mis à mal, notamment avec les réformes sur Parcoursup, la réforme du bac. Les profs sont sous tension avec ces réformes qu'ils ont vraiment du mal à mettre en place. Il y a un stress qui se crée pour l'avenir. Les jeunes sont vraiment, on l'a vu, hein, la santé mentale des jeunes est au plus bas. Enfin, c'est une catastrophe. On a des milliers et des milliers de jeunes qui font la queue devant les banques alimentaires. Et la réponse du gouvernement, c'est on va mettre 2 milliards par an sur la table pour vous faire chanter la Marseillaise à 6h30 du mat devant le drapeau.
Oui, lever du drapeau.
Moi, ça m'inquiète un peu et je pense sincèrement qu'il y a peut-être d'autres priorités, d'autres façons de vraiment faire société. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le principal enjeu et ce qui est aussi vraiment vanté par le gouvernement, c'est faire en sorte de créer de la cohésion. Et créer de la cohésion, comme le disait Malek, comme le disait Chloé, il y a des moyens de le faire avec d'autres solutions qui existent par ailleurs. C'est aussi mettre des moyens dans les choses qui existent, qui fonctionnent, notamment l'école.
Absolument. Par ailleurs, Emmanuel Macron n'était pas le seul candidat à proposer un système qui se rapproche de près ou de loin à une forme de service. Alors, vous rajoutez le mot que vous voulez derrière, citoyen, français, national,
républicain,
etc.
Républicain,
etc. On pense à Marine Le Pen, je crois, qui avait prévu aussi de proposer un truc relativement similaire.
Mélenchon, avec... sinon ?
Et Jean-Luc Mélenchon avait proposé dans l'Avenir en commun, il y avait effectivement une proposition d'un service citoyen obligatoire, mais avec possibilité d'objection de conscience.
Mais pourquoi est-ce qu'on objecterait
Attention, j'ai ma conscience qui objecte, pardon, je ne peux pas.
Du coup, c'est obligatoire, ou alors si c'est obligatoire, mais il faut être précis. Enfin, voilà.
Je sais plus ce que
et surtout, payer au SMIC.
Ouais.
Payer à hauteur du SMIC pendant la durée du service. Est-ce que le pognon règle le problème ?
surtout, ça
non, Jean-Luc.
Tu vois, il y avait une proposition aussi d'allocation d'autonomie pour les jeunes. Je pense que c'est de nature d'ailleurs beaucoup plus à favoriser l'autonomie des jeunes que le SNU, parce que c'est, l'autonomie des jeunes, c'est un des objectifs revendiqués du SNU. Il y avait aussi la proposition de repas à 1 euro pour les étudiants, qui a été rejetée par la majorité il y a quelques semaines. Donc on les a, elles sont sur la table, les solutions pour favoriser l'autonomie des jeunes, pour favoriser leur épanouissement. Honnêtement, ce séjour de cohésion de 12 jours où on fait le lever du drapeau et des pompes tous les matins en se levant à 6 heures du matin, je ne pense pas que ça va régler le problème de la jeunesse dans ce pays, comme tu l'as dit justement, Léa.
Et je sais pas si ça fait kiffer en plus, vraiment.
Il y en a que ça fait kiffer. Et c'est pour ça que moi, je voudrais préciser mon opposition. Encore une fois, je ne suis pas opposé au service national universel dans la forme qu'il a aujourd'hui. C'est quelque chose de volontaire, sur la base du volontariat dans tous les départements. Il y a une dimension militaire qui n'est pas mon truc à moi, mais qui peut être le truc de quelqu'un. Et si c'est ton cas, il n'y a aucun problème. Allez faire un SNU et je trouve ça chouette. Si ça vous plaît, si vous pensez que c'est bien, que ça vous permet de vous engager, c'est chouette. Je trouve que ça coûte, que c'est énormément d'argent dépensé dans un dispositif alors qu'il en existe d'autres qui eux aussi auraient besoin d'être soutenu. Je préférais qu'il existe un panel de possibilités d'engagement pour des jeunes pris en charge par l'État et qu'il existe Erasmus+, si vous voulez le faire à l'étranger, qu'il existe le service civique, si vous voulez le faire dans des assos ou dans des collectivités, avec quelques améliorations du service civique qui ne marchent pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, avec le SNU pour ceux qui veulent, avec les séjours militaires, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les préparations à la défense.
JAPD.
Non, pas JAPD.
Ah, ça, c'est la journée,
journée d'appel...
Les préparations militaires, c'est ça, les prépas militaires qui existent, qui sont ouverts aux jeunes et tout. Très bien, si c'est votre truc, si ça vous plaît, allez-y, foncez. Je trouve que c'est bien, que ça existe, etc. Au demeurant, d'ailleurs, ça a été rappelé par un article du Monde sur la loi de programmation militaire qui va arriver. Il y a une nécessité qui commence à être de plus en plus claire du côté du ministère de la Défense de dire qu'il va falloir remilitariser les esprits dans le contexte de la guerre en Ukraine, en Europe, etc. Il y a des réflexions intéressantes à avoir sur le lien entre la nation et l'armée. Why not imaginer des dispositifs. Donc voilà, moi je ne suis pas opposé par principe au SNU. Ça ne tourne pas que autour des pompes à 6 heures du mat, il y a d'autres trucs dedans. Donc tout ce qui va dans le sens de l'engagement, moi je suis pour. Je suis radicalement opposé par principe au caractère obligatoire. L'engagement, ça ne se force pas. Les valeurs de la République, ça ne se force pas. Et non, chanter la Marseillaise devant un drapeau qui se lève, ça n'a jamais fait rentrer les valeurs de la République à personne. Et c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est mon point de vue et on peut être en désaccord avec ça. Je vous propose qu'on enlève ces casquettes très très moches et qu'on passe au sujet suivant. Et qu'on passe au sujet suivant.
Ah, c'est mieux.
On va devoir aller très rapidement parce qu'on est en retard. Malek, est-ce que tu peux nous faire un peu. Malek et Léa, est-ce que je peux vous demander de faire un point, une intervention chacun sur la Fédération française de football. Noël Le Graët a présenté sa démission, ça y est, cette semaine, c'était attendu, c'était un feuilleton. Première question, d'abord Malek, c'est quoi la FFF pour un mec comme moi qui n'y comprend rien ?
Alors la FFF, c'est donc une association, la fédération qui organise les clubs de football, qu'ils soient amateurs ou professionnels, et qui organise les compétitions nationales et qui gère aussi toutes les équipes nationales, féminines, masculines, des équipes de jeunes et des équipes de futsal. Elle compte 2 millions de licenciés, 1,9, donc presque 2 millions. C'est la première fédération. La deuxième de tennis est à 700 000 ou 800 000.
Okay.
Donc vraiment, c'est un gros truc. Noël Le Graët, parce qu'on en parle beaucoup, mais qui c'est ? C'est un chef d'entreprise à la base qui a fait son succès dans l'agroalimentaire, qui est devenu ensuite président du club de Guingamp, du club de foot, qui est devenu ensuite maire de Guingamp pendant deux mandats, qui connaît très très bien les liens avec le politique et les jeux de pouvoir, et on va en parler juste après. Et il s'en est jamais caché d'ailleurs d'aimer ce lien avec le pouvoir. Alors comment ça fonctionne la Fédé ? On a ramené un petit organigramme pour vous expliquer tout ça. Donc il y a un comité exécutif Noël Le Graët. L'organigramme va arriver incessamment sous peu. Il y a l'Assemblée fédérale. C'est elle qui élit le comité exécutif Alors, c'est l'autre organigramme, les copains, c'est qui organise le, qui élit le comité exécutif, pardon, et le président.
Il a déjà été diffusé, mais vous allez pouvoir le remettre, les gars. Okay. Vous inquiétez pas, vas-y, continue.
L'Assemblée fédérale avec deux partis. À droite, vous avez la Ligue de football amateur, donc avec tous les clubs amateurs qui élisent des présidents de district, de département et des présidents de ligue, pardon, de région. Et ils sont donc dans l'Assemblée fédérale. Et vous avez tous les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont dans cette Assemblée fédérale. Noël Le Graët, il a été élu à 4 reprises en 2011, en 2012, en 2017 et dernièrement en 2021. Et vous allez comprendre que c'est un petit peu House of Cards à la Fédération française de football et que Noël Le Graët est là parce que c'est un fin stratège et qu'il a toujours su évincer ses potentiels adversaires, ses potentiels concurrents en leur filant toujours un petit poste ou une petite place qui pouvait leur faire plaisir.
Quoi qu'il en soit, il a présenté sa démission.
C'est ça.
Cette semaine, en quoi est-ce que c'est nouveau et qu'est-ce que ça dit du coup du dysfonctionnement de la FFF ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont reprochées en réalité depuis très longtemps à Noël Le Graët sur plein de sujets. Et c'est le comité exécutif qu'on a vu tout à l'heure qui a poussé à la démission. Ça, c'est un coup de tonnerre parce que ça aurait pu arriver depuis très longtemps. Et c'est pas arrivé. Il y a le rapport dont va parler Léa juste après, mais il y a des affaires qui sont tout aussi graves, j'ai envie de vous dire. Je reviens dessus, mais il y a des conflits de management. Il est en conflit ouvert avec son ancienne DG, Florence Ardouin, qui vient d'être licenciée. On a eu plusieurs prises de parole de Noël Le Graët qui nous a dit que l'homophobie, bon, ça va, c'était moins grave que le racisme. Il nous a ensuite dit que bon, bah, de toute façon, le racisme dans le football, ça n'existe pas. Et voilà, il y a plusieurs choses qui ont été mises sous silence, des affaires, des accusations en tout cas, d'harcèlement sexuel avec des cadres de la fédération.
On va en parler. Avec
voilà, qui ont été mis sous silence.
Léa, tu peux nous expliquer, il y a eu des révélations du journal SoFoot, je crois, au début.
Exactement. En fait, ça a commencé avec SoFoot qui a fait une enquête sur un style de management un peu particulier, disons-le comme ça, de la part de Noël Le Graët, mais pas que. Hein. Il y a lui qui est visé principalement, effectivement, par des accusations de harcèlement sexuel et harcèlement moral. Donc, à l'issue de cette enquête, en fait, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a diligenté une enquête du ministère des Sports pour voir ce qui se passe au sein de la Fédération française de football. C'est une enquête qui a duré 4 mois et demi. L'équipe qui a enquêté a auditionné près de 115 personnes, donc quelque chose d'assez solide. Le rapport parle effectivement de textos à caractère clairement sexuel qui sont envoyés sans avoir été sollicités. Enfin bref, des choses très, très, très violentes, très inquiétantes. Et du coup, à la suite effectivement de ce rapport qui a été rendu au mois de janvier, Noël Le Graët a été suspendu pendant un certain temps. La ministre a pris la parole en disant que dans ces conditions, il n'avait plus la légitimité nécessaire pour pouvoir occuper ce poste. Et ça l'a un peu effectivement poussé vers la sortie. Sachant que lui porte plainte désormais contre la ministre en diffamation. Donc, ouais. Sans compter qu'il avait bien sûr porté plainte contre SoFoot, etc. J'en profite pour faire un petit point sur la question des violences sexuelles et sexistes dans le sport et du harcèlement moral et sexuel. Il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties ces dernières années. Et en 2020, le ministère a décidé de mettre en place une cellule pour justement pouvoir signaler, faire remonter ces cas. Depuis 2020, il y a plus de 600 cas qui ont été remontés, qui concernent 54 fédérations. Donc c'est quand même assez inquiétant.
Ah, il y a un phénomène, ouais.
Du coup, je me suis quand même intéressée à cette question et j'ai découvert un auteur qui s'appelle Philippe Lyotard, qui est anthropologue, professeur d'anthropologie du corps à Lyon 1. Et il a participé à un ouvrage qui s'appelle « Sport et virilisme ». Et il fait état, notamment dans cet ouvrage, du lien très fort qu'il y a dans le sport avec la culture de l'effort, de la virilité et du manque de respect des femmes. Sachant que sur les 600 accusations, les 600 cas remontés signalement dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 90% qui concernent des cas de violence sexuelle et 80% qui concernent les femmes. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce point. À retenir, c'est wait and see, puisqu'il y a une plainte en diffamation qui a été déposée par Noël Le Graët qui va. Donc il y a une plainte en diffamation, il y a une contestation devant la juridiction administrative du rapport qui a conduit à son éviction et finalement à sa démission. On suivra ça de près. Il a été recasé à la tête de la FIFA à Paris, donc il va rester dans le circuit du sport professionnel et du sport de haut niveau. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de Noël Le Graët.
Et il y a un président par intérim, Philippe Diallo, qui est là jusqu'en juin, jusqu'à la convocation de la prochaine Assemblée fédérale, qui a pris la parole aujourd'hui devant les salariés de la Fédération, en disant que pour 2024, il y aurait un comité exécutif qui serait entièrement paritaire et que les questions d'harcèlement sexuel allaient être sa priorité dans les prochains mois et les prochaines années.
Donc, on va continuer à suivre ça, mais il se passe des choses dans le monde du sport. Parfois, ça casse comme avec le Gret, mais est-ce qu'on peut pas dire que c'est aussi, paradoxalement, un nettoyage bienvenu d'un secteur qui, depuis longtemps, est réfractaire à des changements qui existent
disons
ailleurs.
Disons qu'on a la bonne ministre, en fait. Je pense que...
Odia Cassara.
Pour le coup, ouais. Elle était d'ailleurs directrice générale de la Fédération française de tennis, quand il y avait eu des affaires qui avaient été jugées. Et je pense qu'elle a vraiment envie de faire le taf, quoi. Ça se sent, d'ailleurs. Et bref...
Merci.
Affaire à suivre, mais j'espère que les choses évolueront.
On continuera à suivre ça, à vous intéresser à ce sujet, il est passionnant. Sans plus tarder, chers amis, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante de l'émission et qu'on accueille le PowerPoint de Vincent.
Le meilleur moment.
Salut Vincent.
Salut.
Ça va ?
Ça va très bien. Écoutez, même si cette semaine... Il m'est arrivé quelque chose.
Raconte.
J'ai eu un bouton d'acné qui a élu domicile sur ma tronche.
Oula.
Vous l'avez tous remarqué, j'ai vu tout à l'heure vos regards.
On n'a pas trop osé en parler, mais...
Vous ne me regardiez pas trop dans les yeux, hein, je le vois. Bon, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je peux assumer, j'ai 31 ans maintenant, etc. Et puis je me suis rappelé d'un truc, on est en 2023, il y a des filtres maintenant sur les applications. Pourquoi assumer quand on peut juste s'embellir, avoir la peau toute belle, toute lisse? Et en plus, en ce moment, il y a vraiment un filtre assez dingue sur TikTok. C'est le filtre qu'on appelle Bold Glamour. Donc, c'est un filtre officiel de l'application qui a été vu et utilisé des millions de fois. Vous pouvez voir quelques exemples un peu du rendu avant et après avec plusieurs utilisateurs. Et pour que vous réalisiez un peu mieux à quel point c'est impressionnant et troublant même, on a une petite vidéo. J'ai fait une petite vidéo juste d'avant-après pour qu'on réalise.
This is not what I look like right now. This filter should be illegal. Here's the real me.
Ah ouais, d'accord.
Pour les autres, on va découvrir ma vraie tête derrière ce filtre. Je dis pas que je suis moche, mais c'est pas ça, quoi. Voilà. Non, ok. Ouais, non. En fait, forcément, tu te trouves moche. J'en bégayais.
Génial.
Voilà, donc moi, quand j'ai vu ça, forcément, avec l'algorithme, j'ai eu une pression algorithmique à le tester. Et c'est vrai que c'est amusant à observer. Puis je me dis, voilà, il faut que je teste. Et bon, j'ai emmené quelques personnes avec moi dans ce test-là. Puis on va voir un peu les résultats et ce que
vas-y,
ça donne.
Vas-y, montre.
Alors, petit commentaire rapide. C'est vrai que sur les hommes, l'effet est quand même moins poussé. C'est pas parce qu'on est beau de base, hein, c'est juste qu'il y a des biais dans.
C'est vrai que sur les meufs, c'est incroyable.
Tu me vexes un petit peu, Vincent, je te cache pas un peu.
T'es déjà très beau, arrête.
Moi, je suis couverture de magazine. Là, je fais la couverture de Playboy, là.
Non, mais Adèle.
Ouais, voilà, et voilà. Enfin, je vous laisse face à vos reflets, en fait, tout simplement. Mais ce qui est fou, en plus, c'est que sur les vidéos, on le voit pas forcément sur celles que j'ai partagées, mais quand on passe la main devant son visage, ça ne s'arrête pas, en fait. C'est-à-dire que ça reste un peu comme collé au visage. Et ça glitche pas du tout, même. Et
Adèle Tchad.
C'est grave que des Tchad. Et pourtant, enfin, comme l'a rapporté le média Spotters, je pense que vous avez cet étrange sentiment quand vous utilisez ce filtre. Je pense qu'il y a une impression de distance par rapport à votre écran et par rapport à qui vous voyez dessus. Et c'est pas la première fois que des filtres font ressentir ça à leurs utilisateurs. Et c'est pour ça que cette semaine, j'avais envie de me demander un petit peu quels sont les vrais effets des filtres sur nous et sur nos visages, en fait. Parce qu'en fait, c'est assez fou de se rappeler qu'il y a quelques années encore, quand on parlait de filtres, les premiers qui ont émergé sur Snapchat, on cherchait avant tout à déformer les visages, à se rajouter un chapeau, à vomir des arcs-en-ciel, ce genre de choses, ou à ressembler à ça, par exemple. Voilà.
Ah, il nous manquait.
Vous saviez que j'allais le mettre.
Mais oui, bah oui.
Vous saviez, en plus, c'est totalement justifié, c'est totalement, ça a été validé avec la prod. Enfin, puis on m'a dit, vas-y, c'est normal, ça sert le propos, en fait. Donc, voilà. Mais voilà, à l'époque, les fils, c'était drôle, c'était divertissant, c'était good vibe, un petit peu, comme on dit. C'était mieux avant, en fait. J'ai envie de le dire tout simplement sur les filtres, en tout cas. Et grâce à Instagram et à son outil Spark AR, n'importe qui pouvait créer et proposer son propre filtre et moi-même, j'avais participé activement à ce mouvement créatif et artistique en proposant un filtre que le peuple attendait à l'époque, hein, je tiens à le dire.
Oh. Alors, c'est un... Montre.
C'est un vrai article, il existe vraiment. J'ai vraiment fait un filtre hommage au flan pâtissier.
C'est toi qui l'as créé.
C'est délicieux, le flan pâtissier.
Merci beaucoup, merci d'accord. de rejoindre la cause.
Avec quelques grains de vanille, sinon c'est pas bon.
Et t'as eu un article dans Combini, d'accord.
Oui, voilà, mais c'est des inside jokes un petit peu. Voilà, je sais pas ma plus grande fierté non plus. Hein, mais voilà, c'est pour justifier le fait que je peux être pertinent à parler sur ce sujet. Et je demande juste qu'on
t'es
accepte.
Légitime.
Voilà, acceptez-moi malgré mon background.
Non, dire, au voilà. contraire.
mais au fil du temps, en fait, on a vu d'autres fils qui ont commencé à émerger. Il y a eu voilà, des fils qui tirent un peu nos traits, qui lissent notre peau un peu, qui ajoutent un peu de maquillage de pixels, en fait.
Ouais, ça, j'avais déjà
et
vu.
Et une lumière assez flatteuse. Et en fait, c'est des fils qui nous rendent beaux, ou plutôt, c'est des fils qui nous imposent certains canons de beauté et codes esthétiques établis un petit peu dans le monde, on va dire, et notamment des codes très ancrés dans la culture occidentale. Et puis, il y a aussi des applications qui, depuis les années 2010, repoussent toujours plus loin les limites de l'impossible. Il y avait Facetune, il y avait FaceApp, il y avait Meitu, que vous voyez en haut à droite, qui ont suscité de nombreuses polémiques sur l'utilisation des données personnelles de nos visages, sans pour autant vraiment affecter leur succès. Je pense qu'on a tous voulu un moment faire le test et on a tous donné notre visage à une application. Et ça a eu beaucoup de succès donc, auprès des influenceurs et donc de nous indirectement. Et Meta avait quand même décidé en 2019 d'interdire la mise en ligne de filtres de beauté pour rendre plus beau, parce qu'ils étaient conscients quand même de l'impact potentiellement négatif. Mais sous la pression, quelques mois plus tard, ils ont réautorisé ces filtres. Pourtant, dans le même temps, il y a des scientifiques qui ont assez vite commencé à travailler sur le sujet et à parler d'un phénomène qu'ils ont appelé la Snapchat dysmorphia. Il y a plusieurs articles scientifiques qui en parlent. Il y a eu tout un tas d'articles dans les médias, parce que aussi dès qu'il y a une panique morale, forcément, certains médias adorent aussi en parler. Ils ont accusé les filtres de créer des complexes chez les utilisateurs, d'alimenter une dysmorphie chez eux, c'est-à-dire ce sentiment que de considérer cette certaine partie de notre corps comme difforme. Et certains même ont eu, selon certains articles et témoignages, eu envie de recourir à la chirurgie esthétique en arrivant chez le chirurgien et en montrant des fois certains filtres directement. Il y a Elsa Marie et Ariane Rioux qui consacrent d'ailleurs toute une partie de leur livre enquête et que vous allez recevoir dans un instant. Alors, bien sûr, les filtres ne sont pas les seuls responsables de cette situation, loin de là. Hein, c'est la conséquence de normes très anciennes, occidentales, souvent dictées notamment par l'industrie des cosmétiques, par les influenceurs et par une société patriarcale, qui est globalement et encore assez solide sur ses appuis. Mais depuis l'émergence de ces filtres, malgré la couverture médiatique et scientifique, ça a continué son chemin. C'est-à-dire qu'ils sont devenus toujours plus bluffants avec l'essor des IA notamment. Il y en a qui sont censés vous montrer comment les autres vous voient, qui est assez troublant, peut-être que vous l'avez essayé sur TikTok, vous transformer en œuvre d'art ou même vous montrer tel que vous étiez ado. Et il y a pas mal de gens qui ont partagé des TikTok et qui étaient un peu émus aux larmes de se revoir un petit peu comme ils étaient ados à l'époque. Et avec ces sentiments, désormais, je trouve d'être entré un peu dans la fameuse Uncanny Valley, cette vallée de l'étrange où il y a les frontières entre notre réalité et celle de la personne sur l'écran qui se troublent un petit peu. Il y a une forme de dissonance cognitive, je trouve, même si on rentre trop un peu dans ces filtres-là. On se met à se questionner soi-même comme si on avait affaire à une forme d'humanoïde un petit peu inquiétant. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en finissant d'écrire cette chronique, j'ai repensé au filtre Bold qu'on a utilisé pour l'émission et qui nous rend un petit peu différents, forcément. Puis je me suis dit qu'au final, même sans les filtres, on était quand même déjà giga BG. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Merci. Bonne fin d'émission.
Merci beaucoup à toi, Vincent. Merci beaucoup pour le PowerPoint de Vincent. Un sujet hyper intéressant et particulièrement d'actualité, dont on va continuer à parler sans plus tarder, sans transition. Je vous propose qu'on accueille les invités qui vont venir parler avec nous de ce sujet. Entre autres, je vous demande d'accueillir Ariane Rioux et Elsa Marie. Bonjour. Bonjour Ariane et Elsa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Vous êtes toutes les deux journalistes au Parisien et vous êtes autrice du livre dont a parlé rapidement Vincent, qui s'appelle Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Sorti il y a seulement 15 jours.
Oui.
Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de ce sujet. Et on est également en visio, normalement, si tout se passe bien, avec Luna Sky. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Elle n'est pas là encore. Elle va se connecter. Elle va nous rejoindre. Et on en discutera avec elle. Vous avez sorti ce livre il y a 15 jours, comme je vous le disais. Est-ce que vous pouvez nous faire un point global sur le phénomène de la chirurgie esthétique chez les jeunes? Est-ce que c'est un phénomène nouveau d'abord, ou est-ce que ça a toujours existé? Je ne m'en rends pas compte.
Non, pas vraiment. En fait, le gros basculement, c'est en 2019, où il y a ce chiffre qui sort. Aujourd'hui, il y a plus de 18-34 ans qui font de la chirurgie, qui font plus de chirurgie que les plus de 50 ans. Et en fait, c'est un vrai basculement, parce que les plus de 50 ans, c'était la patientèle historique. Et en fait, aujourd'hui, le raisonnement est un peu différent. On ne va plus dans les cabinets de chirurgie esthétique pour gommer des signes de vieillesse, mais plutôt pour les anticiper, et par mode aussi.
D'accord, il est là le changement. Oui, c'est qu'en fait, la chirurgie esthétique a longtemps été un truc où on va réparer quelque chose qui déplaît, et maintenant on y va parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va mal, mais on a peur que ça aille mal plus tard. C'est ça le phénomène ?
Oui, c'est ce que disait Ariane, c'est-à-dire qu'on va anticiper signe de vieillesse, mais aussi on veut optimiser sa beauté, en tout cas ce que nous disent les jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont dans la fleur de l'âge et donc ils veulent être le plus beau possible à ce moment-là.
Pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, c'est quoi les principales opérations qui existent et qui se font le plus pour les jeunes?
Alors, il y en a trois. Il y a la liposuction, la rhinoplastie, donc l'opération du nez, et les augmentations mammaires, pour les filles, en l'occurrence.
D'accord, ok.
C'est les jeunes qui les font le plus, ces opérations-là.
Il y a une question, moi, qui me vient quand même très spontanément. Je suis désolé, vraiment, j'y connais rien. C'est le côté très naïf de
l'interview.
Après, on va en parler parce qu'on a plein de questions à vous poser, mais... ça coûte un bras, une opération de chirurgie esthétique, quand même.
Oui.
Comment les jeunes financent ça? Ou est-ce que c'est que les jeunes riches? Ou est-ce que c'est un cliché, ça?
Alors, justement, en fait, ce qu'on montre dans notre livre, c'est qu'il y a tout un business qui est organisé pour que le prix ne soit même plus un obstacle. Par exemple, une augmentation mammaire, c'est dans les 5 000 euros. Une rhinoplastie, donc une opération du nez, c'est à peu près 4 000 euros. Donc, ça coûte quand même cher. Avant, c'était quand même des actes qui étaient réservés à une classe aisée. Et maintenant, il y a, depuis les années 2000-2005, on va dire, il y a tout un développement aussi du tourisme low cost à l'étranger, avec des opérations qui sont 2 à 3 fois, voire 4 fois moins chères. Et ensuite, on en parlera, il y a des injectrices illégales, des femmes, en fait, qui sont des usurpatrices et qui proposent des injections pour gonfler les lèvres à 150 euros. Et donc, voilà, à prix cassé. Donc, la jeunesse qui est désargentée s'y presse au risque d'être défigurée.
C'est-à-dire qu'on connaissait le tatoueur qui te tatoue un peu à l'arrache dans un appartement aux conditions d'hygiène vite fait. Ça existe aussi maintenant pour des injections.
Oui, sauf que les jeunes filles se retrouvent mutilées à vie.
Oui. Ok, d'accord. Dernière question, justement, puisqu'on en parle. C'est quoi les choses les plus graves qui peuvent exister? C'est quoi le risque pour la santé de ces opérations de chirurgie esthétique lorsqu'elles ratent? Tu parles de mutilation, c'est-à-dire, vous avez des exemples?
Alors, pour le coup, le risque physique, c'est comme pour toutes les opérations de chirurgie. Il y a le risque qui est lié à passer au bloc opératoire, il y a le risque qui est lié à l'anesthésie générale, et puis il y a toute une période de convalescence. Pour les filles mutilées, on a rencontré des filles pour qui avaient connu une infection généralisée, notamment une fille, peut-être qu'on aura tout à l'heure, Luna Sky, qui est influenceuse, qui, elle, s'est fait... Donc là, c'était pas de la chirurgie esthétique, c'était de la médecine esthétique. Donc là, c'est des injections, c'est un peu moins invasif, sauf qu'il y a aussi des risques. Donc elle s'est fait injecter de l'acide hyaluronique dans les fesses, et depuis, elle vit un cauchemar parce que tout s'est infecté, elle est passée plusieurs fois à l'hôpital, et aujourd'hui, elle parle de réparation et même plus d'esthétique pour retrouver un corps comme elle l'avait avant.
Dernière question avant de passer la parole à mes chroniques. Moi, je pourrais continuer pendant des heures, mais ce n'est pas le projet de Backseat. Il y a eu des questions dans le chat tout à l'heure. Est-ce que c'est genré, les interventions de chirurgie esthétique, ou c'est plus des filles, plutôt des garçons?
Alors, c'est plus des jeunes femmes, mais on voit de plus en plus de jeunes garçons. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi exposés aux mêmes normes tyrannisantes sur les réseaux sociaux. Eux aussi regardent des influenceurs, eux aussi essayent des filtres. Et donc, on en voit de plus en plus. Les garçons font surtout des greffes capillaires, des liposuccions. Je me souviens que quand on avait fait un reportage dans la clinique à Marseille, il y avait aussi des jeunes garçons qui se faisaient poser des prothèses de mollets pour avoir un corps de marathonien. Donc voilà, il n'y a plus un centimètre carré du corps qui échappe à la chirurgie
même
esthétique
mollets,
aujourd'hui.
Okay. Ouais. Ok, intéressant. Malek, toi, tu connais des gens qui ont eu recours à la chirurgie esthétique ?
Je connais des gens qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Il y a très longtemps, j'ai une connaissance qui est partie en Turquie faire une liposuction et elle m'a appelé dans la nuit qui a suivi son opération en hurlant de douleur et en me disant qu'elle regrettait. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une connaissance aussi qui a fait une rhinoplastie qui, en réalité, n'a pas regretté son geste après coup, mais qui dit qu'il y avait eu un manque d'accompagnement réel parce qu'elle ne se reconnaissait pas forcément, que ses proches ne la reconnaissaient pas aussi. Et il y a eu cette réflexion qui lui est venue de se dire qu'il fallait peut-être un âge minimal et un certain accompagnement, un certain délai en fait avant de passer sur le billard, si je peux me permettre l'expression. Moi, je vous avoue que je suis pas vraiment contre la chirurgie esthétique si c'est fait dans de bonnes conditions d'hygiène avec des médecins qualifiés. Voilà, j'ai de plus en plus, on parlait de la chirurgie genrée ou pas. Moi, j'ai de plus en plus de potes qui veulent partir à l'étranger pour faire des greffes de cheveux.
Parce que la
calvitie, ça commence à leur peser. Ça, je peux pleinement comprendre. Et aussi, petite anecdote, moi, on m'avait proposé, quand je faisais de la télé et que j'étais en prime tous les jeudis soirs, il y a une clinique en Turquie qui m'a contacté, qui m'a proposé une liposuction gratuite en échange d'une pub sur Instagram. Ouais. Vous voyez, j'ai perdu 35 kilos.
C'était avant.
Je les ai perdus seuls, mais sans eux. Mais il y a un vrai danger, il y a un vrai business en fait du tourisme.
Oui. Allez-y.
Non,
mais juste pour préciser que notre enquête, elle n'est pas du tout contre la chirurgie esthétique. Si elle est réfléchie, ce qu'on dénonce, c'est vraiment la banalisation de la chirurgie, le fait qu'aujourd'hui les jeunes poussent la porte sans vraiment réfléchir.
Et l'industrialisation, en fait, le fait que finalement les jeunes se retrouvent clonés, ils sont des sortes de prototypes qui ressortent à l'identique, comme s'ils sortaient de cliniques qui étaient des sortes d'usines, quoi. Donc c'est ça qu'on dénonce.
Il y a quelqu'un qui dit question idiote. Non, il n'y a jamais de question idiote. Une chirurgie esthétique pour les parties intimes, est-ce que c'est possible?
Oui.
Ça existe.
Malheureusement, j'allais dire. Enfin, ça se développe de plus en plus. Chez les femmes, c'est la nymphoplastie, donc la réduction des petites lèvres. Le porno, malheureusement, a fait que les femmes, en fait, sont épilées à l'écran. Donc, elles ont fait en sorte connaissance avec leur sexe. Et pareil, là aussi, il y a une norme, comme pour le visage, comme pour les seins, comme pour la taille. Et donc, ce que nous disaient les chirurgiennes qui font ces opérations-là, c'est que c'est une sorte d'abricot. Et donc, les jeunes femmes veulent se faire couper, réduire les petites lèvres pour avoir un sexe normé, ce qui pose quand même question. Mmh. Et pour les hommes aussi, élargissement ou élargissement ou
Léa, je me tourne vers toi. On parle depuis tout à l'heure et c'est normal. Ce qui pousse les personnes à faire des interventions de chirurgie esthétique, c'est la volonté de se conformer à l'image qu'on se fait, des injonctions ou même de soi-même. Tu peux nous en parler ?
Moi, ce que je trouvais intéressant, ce que j'ai bien aimé aussi dans votre livre, c'est l'aspect un peu retour en arrière. J'ai trouvé très intéressant de la partie où vous parlez notamment des années folles, où finalement la chirurgie esthétique était considérée comme vraiment un outil d'émancipation féministe, presque. Je trouvais ça assez intéressant. Et c'est vrai que moi, je considère que pour certaines personnes, après tout, chacune fait ce qu'il veut et ce qu'elle veut. Moi, je pars de ce principe-là, avec son corps surtout, ce qui est important, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de moralisation autour de ça aussi. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce biais-là, ce que vous ne faites pas par ailleurs, parce que c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a quand même des moments où, effectivement, ça peut être important pour certaines personnes. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, on voit que depuis même l'Égypte antique, le fait de devoir répondre à des injonctions, notamment pour les femmes, plus particulièrement, c'est des choses qui existent quasiment depuis l'Antiquité et depuis toujours. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé d'après vous ? Moi, je regardais la semaine dernière un documentaire qui a été réalisé par Delphine Seyrig dans les années 70 qui s'appelle « Sois belle et tais-toi » où elle fait le tour de Hollywood où notamment elle a interviewé Jane Fonda qui expliquait qu'on lui avait demandé de se faire casser la mâchoire, ce qu'elle avait refusé de faire. Qu'est-ce que finalement, notre époque d'aujourd'hui, quelle est la différence avec ces années-là en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pire qu'avant ? En quelque sorte.
Ariane, après, Elsa.
C'est vrai que les femmes ont toujours été confrontées à des normes, des normes tyrannisantes, avec les magazines notamment, les magazines féminins, les régimes. Mais là, si vous voulez, les réseaux sociaux font que les jeunes se retrouvent exposés à ces contenus toute la journée. On a suivi des jeunes dans le livre qui ont 15-16 ans et on leur a demandé mais combien de temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Ils nous disent on regarde ces influenceuses 5 heures par jour en moyenne en semaine et 10 heures le week-end.
Non, mais c'est pareil avec la télé, on peut dire ça. Moi qui ai grandi dans les années 90-2000, franchement, quand je regardais la télé, je voyais des meufs qui étaient copie conforme, quasiment identiques, avec les mêmes cheveux. Enfin, quand on regarde Art les cœurs à vif, je prends des vrais refs, Friends, etc. Enfin, tout le monde s'en fout, quoi.
Entre-temps, il y a eu Kim Kardashian.
Instagram, tu peux pas.
Ah, tu penses que c'est ça le point de basculement? Vous vous dites qu'il y a un point de basculement avec
les filtres. Oui, bien sûr.
Avec les filtres, avec
Oui, pardon.
Non, mais c'est juste qu'aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup plus assumé. Le basculement, c'est a priori Kylie Jenner, la plus petite des Kardashian, qui, elle est filmée depuis qu'elle a 11-12 ans, et qui, parce qu'elle était très critiquée, notamment sur ses lèvres, a développé des complexes. Elle les trouvait trop fines, donc elle les a fait gonfler. Donc elle a été obligée, finalement, d'avouer qu'elle l'avait fait dans l'émission de télé-réalité dans laquelle tourne sa famille. Et en fait, ça a été un basculement, parce qu'avant, il y avait pas mal de stars aussi qui pratiquaient la chirurgie, mais qui ne l'assumaient pas forcément.
Et oui, là, je me souviens, à l'époque, c'était tabou, et donc les tabloïds se posaient la question.
Et Marilyn Monroe, on a appris qu'elle en avait fait, mais à sa mort, même à la mort de son chirurgien, qu'il avait dit. Là, Kylie Jenner, elle l'a assumé, et je pense que...
C'est ça la nouveauté, c'est que maintenant, on en parle. Vous croyez que ça fait partie aussi du truc?
Oui, c'est une bonne question.
Et vous parlez du...
C'est vraiment aussi les filtres qui ont changé la donne sur les réseaux sociaux, c'est que justement, donc cette très bonne chronique d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, on fait des essayages identitaires, c'est-à-dire que tout d'un coup, on affine son nez, on voit sur ses filtres.
C'est une projection qui est plus
exactement,
simple.
Exactement, et finalement, on se voit tel qu'on pourrait être et qu'on n'est pas, ce qui met en échec et qui donne ensuite envie de passer du virtuel au réel en poussant la porte des cabinets de chirurgie esthétique.
Chloé, est-ce que les jeunes sont égaux devant les réseaux sociaux, de ce point de vue-là?
Non, on n'a pas tous la même estime de soi, on n'a pas tous la même confiance en soi en fonction de notre éducation, de notre parcours de vie. Et donc, on n'est pas tous autant à risque quand on est exposé à certaines injonctions, certains modèles de la beauté. Mm-hmm. Et donc ça peut être source de souffrance chez beaucoup de jeunes. Moi, merci pour votre enquête, quand je la lis, je me dis qu'il y a quand même une forme de recul. On avait l'impression qu'avec le féminisme, grâce au féminisme, on allait plus vers la culture du body positif, être capable de s'assumer comme on est. Et vous, aujourd'hui, ce que vous tracez, c'est quand même pas du tout ça. C'est un courant très puissant. Vous parlez de business organisé. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que vous dites que c'est plus de la publicité, c'est plus simplement de la chirurgie esthétique qui a toujours existé. Et pour certaines personnes, ça peut être très bénéfique. Là, c'est un business organisé qui a intérêt à ce que nous ayons honte de ce que nous sommes, parce que c'est dans leur intérêt financier. Et donc ça, je crois que ça peut avoir des conséquences sociales, bien au-delà du fait d'avoir recours à telle ou telle opération, des conséquences sur l'ensemble de la société. Vous dites dans votre livre, la jeunesse se retrouve piégée, parfois mutilée à vie, elle n'est plus capable de s'aimer. Donc c'est un problème de santé publique, in fine, de santé mentale, énorme, et qui dépasse les frontières de la chirurgie esthétique.
Oui, c'est un problème de santé mentale, parce que ce qu'on dit, c'est que d'un côté, il y a ces influenceuses qui font sans arrêt la promotion de la chirurgie esthétique, qui donnent envie aux jeunes qui les suivent et qui les prennent pour modèle de les imiter. Il y a de nombreux chirurgiens, pas tous évidemment, mais qui ont abandonné leur code déontologie et qui postent des avant-après, ce qui donne l'impression, enfin des photos, vous savez, où on voit un nez bossu sur la photo d'après qui tout d'un coup est tout fin, ce qui donne l'impression que le bistouri est un coup d'effaceur magique. Donc en fait, on banalise la chirurgie esthétique, on donne l'impression que c'est facile, or c'est pas vrai. Et derrière, en fait, on parlait des risques d'une opération, mais il y a aussi des risques psychologiques. Par exemple, quand vous changez votre nez, il faut pouvoir après se reconnaître dans le miroir, c'est pas simple, enfin c'est pas anodin en fait, ces modifications du visage, faut pouvoir se dire, est-ce que c'est bien moi, se reconnaître et que ça c'est accepté, quoi.
Pour prolonger ce que vous dites sur mon amie là, qui a fait sa rhinoplastie, elle est restée chez elle pendant 8 semaines sans pouvoir sortir, parce que justement elle se reconnaissait pas, et donc là 4 mois après elle commence tout juste à s'y faire, mais il y a un vrai impact psychologique, c'est réel.
On a été rejoint en visio par Luna Sky. Luna, est-ce que tu m'entends?
Ouais.
Salut, merci d'avoir accepté l'invitation à venir discuter sur Backseat. Toi, tu as été connue avec l'émission Les Princes de l'Amour, c'était en 2020. Après, tu as commencé une carrière d'influenceuse dans la musique, et tu as été hospitalisée en 2021 après une infection qui a été provoquée par une opération de chirurgie esthétique sur les fesses. Tu en as parlé, tu as témoigné, et d'ailleurs tu fais l'objet d'un chapitre dans le livre d'Ariane et Elsa. Merci d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce qui t'avait poussé à l'époque à faire cette opération de chirurgie esthétique?
Alors, j'ai pas fait d'opération de chirurgie esthétique. Du coup, j'ai fait des injections. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait.
Excuse-moi, je connais, c'est anodin de base.
Mm. En fait, c'est vraiment dit comme anodin. C'est comme si t'allais, je sais pas, faire des lips, comment on appelle ça, des augmentations des lèvres. Donc, c'est censé vraiment être anodin. Il n'y a même pas d'anesthésie pour vous dire. Et ça se fait en cabinet. Et donc, moi, on m'a proposé de le faire. Et j'ai même pas eu de délai de réflexion, je l'ai fait en fait directement parce qu'on m'a dit de toute façon, t'inquiète pas, il y a zéro risque, tout va bien se passer, il n'y a jamais eu de risque pour le moment. Et en plus, dans tous les cas, comme c'est quelque chose que le corps produit naturellement, il y a vraiment zéro risque.
Et en l'occurrence, il y avait un risque parce que tu en as souffert dans ton corps tu as eu des complications, tu as été hospitalisé et aujourd'hui tu en témoignes. Bravo à toi d'ailleurs d'en témoigner. Tu peux nous raconter le parcours que tu as vécu ?
Ouais, c'était assez compliqué en fait. Au début, ça a commencé au bout de un mois, j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires. Il faut savoir qu'il m'a injecté dans les muscles, chose qu'il ne faut jamais faire. Et en fait, il est là le problème, c'est que j'ai été injectée à des très 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 mauvais endroits. Je pense que le médecin, quand il l'a fait, il ne devait pas avoir toute sa tête vu ce qu'on a trouvé dans l'ISIRM, parce qu'on en a trouvé dans le périnée, le sacrum, donc vraiment à des endroits complètement... complètement tordu.
Ouais.
Et donc au début j'avais des douleurs musculaires comme des, je sais pas comment on dit en français, sore.
Contraction. Oui, contraction, oui.
Quand on a fait trop de sport. Quand on a fait trop de sport, je sais pas comment
courbature.
On dit.
Courbature,
voilà, merci, désolée. Et donc j'avais comme des sensations de forte courbature, sauf que quand j'ai regardé mes fesses, j'avais deux énormes taches rouges et après on est suivi 6 mois d'aller-retour dans des hôpitaux à essayer de trouver des solutions. Et j'ai dû rentrer en France parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ne savaient pas ce que c'était. Et les injections, en tout cas, il y a un an, c'était complètement illégal là-bas. Et donc, pour eux, ça avait été fait par un médecin crapuleux. Et donc, ils voulaient que je retourne auprès de ce médecin crapuleux en question pour pouvoir me faire soigner. Ils ne voulaient pas me soigner aux États-Unis.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que j'ai dû rentrer en France. Et alors, en France... J'ai encore repassé 2 mois en tout à l'hôpital et j'ai fait des hémorragies. Enfin, ça a été vraiment une catastrophe. J'ai fait plein d'opérations pour essayer de retirer le produit. Je crois en tout des interventions, j'ai dû en avoir une quinzaine. Et là, j'ai encore plein de produits dans mon corps, mais j'ai plus la force de refaire des opérations. Et je me suis habituée en fait à vivre avec la douleur. Donc, je vis avec la douleur. Et de base, je devais faire une reconstruction. Sauf que je peux pas faire de reconstruction parce qu'il y a 99% de chances que je meure sur la table d'opération. Donc du coup, je ne vais pas faire de reconstruction et je vais rester avec des fesses qui ressemblent à pas trop des fesses, mais c'est pas grave.
On comprend, Luna, évidemment, ça ne doit pas être facile. C'est un parcours du combattant pour toi, d'ailleurs, tu nous l'expliques. Tu continues à être influenceuse aujourd'hui. On discutait tout à l'heure du rôle justement de l'influence dans le fait d'être attirée par des opérations de chirurgie, ou pas que des opérations de chirurgie, j'ai bien compris, aussi des injections, des choses plus bénignes. C'est un monde auquel toi et moi, on appartient. Est-ce que tu penses qu'on a une part de responsabilité ?
Ouais, totalement. Après, moi, je sais que dès le départ, quand j'ai compris que j'avais de l'influence par rapport aux réseaux sociaux, parce que j'ai fait de la télé, je me suis toujours dit, je ne vais jamais promouvoir des choses qu'on va fumer, de l'alcool ou de la chirurgie esthétique ou tout ce qui est en rapport avec la religion, puisque c'est mes principes personnels. C'est d'ailleurs pour ça que moi, ces injections, j'en ai pas fait la promotion, je les ai payées. Et j'ai toujours été contre, j'ai jamais compris d'ailleurs le fait de faire de la promotion de choses aussi personnelles, parce que ça a un impact tellement sur la vie personnelle des gens qu'on peut pas se permettre de les influencer sur ça. C'est comme moi, j'influence pas les gens sur leur religion et je pense que je devrais pas les influencer sur quel docteur ils vont aller voir ou quelle procédure esthétique ils vont faire. C'est trop personnel.
Non mais c'est intéressant, tu dis qu'il y a une limite entre ce sur quoi on peut se permettre d'influencer les personnes sur des achats, sur la consommation, peut-être sur du maquillage, des choses comme ça, mais il y a une limite à ne pas franchir et c'est pour toi, c'est ce qui rentre dans le personnel, dans le corps, dans la santé, dans aussi la religion.
Bien sûr, mais après, après même par exemple, si je vais promouvoir, je sais pas moi, un maquillage qui va avoir un composant toxique dedans, c'est mon entière responsabilité en fait, vraiment. Et je pense que les influenceurs, ils l'oublient ça. Si tu vas faire la promotion de choses qui se trouvent sur AliExpress et il y a un mauvais composant dessus parce que ça vient de Chine, que les normes ne sont pas respectées, c'est la personne qui en a fait la promotion qui est responsable.
Luna, dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du mouvement qu'on appelait body positive, qui consistait à mettre en avant plutôt des corps naturels? Est-ce que ça a été balayé par les réseaux sociaux depuis les Kardashians? On en parlait sur le plateau avant. Est-ce qu'on vit dans une ère de fake absolue permanente avec les filtres? Ou est-ce que tu penses que ça peut revenir? Est-ce que tu as un message à faire passer? C'était aussi ça ma dernière question.
Ok. Je pense... C'est assez délicat comme sujet. J'ai l'impression que ça dépend dans la sphère dans laquelle on est, parce qu'il y a des sphères que j'ai pu côtoyer qui sont très très loin de ça. Malheureusement, chez les jeunes, cette sphère-là, elle est pratiquement infime. Et oui, ça devient un petit peu trop superficiel. Maintenant, chez les jeunes, c'est à qui aura les plus beaux seins, les plus belles fesses, le plus de followers, etc. etc. C'est très très dommage. Ça me fait très peur. Moi qui suis en âge, par exemple, d'être maman, je me dis, j'ai peur d'élever des enfants dans une société qui part dans cette direction. Après, je pense que ça prend tellement un virage assez draconien, justement avec les Kardashians, etc., dans le négatif, que c'est en train de changer. C'est bien pour ça qu'elles ont tiré leurs injections, etc. Et là, les personnes se rendent compte de plus en plus que c'était n'importe quoi.
Je comprends.
Parce que toutes les personnes qui ont fait des injections, ils ne pourront pas le retirer. Ils vont être comme dans le même cas que moi, hein, parce que ce soit de l'acide hyaluronique ou de la graisse ou autre, ça ne se retire pas comme ça.
Il y a une question qui a beaucoup été posée par le chat pendant qu'on discutait. Est-ce que le médecin qui t'a fait ça a été poursuivi en justice? Est-ce que ces personnes qui font ça, ces escrocs, doivent-ils répondre de leurs actes ou pas?
Bah écoutez, c'est incroyable, mais je peux pas. Enfin, je sais même pas ce que je peux dire de ça, mais je trouve ça juste incroyable qu'ils soient encore en train de pratiquer. Parce que moi, j'avais un avocat que j'ai changé, parce que bon, les avocats, ils sont un petit peu tous de mèche aussi dans ce milieu. C'est très spécial, hein. Vraiment. Moi, en tout cas, pour mon médecin, ça a été très spécial. Pendant un an, mon avocat, il a fait traîner la chose. Il m'a fait croire que il ne pratiquait plus, sauf que j'ai appris qu'il pratiquait encore et j'arrive pas à comprendre en fait. Donc là, j'ai réentamé une procédure avec un nouvel avocat et j'espère que ça va avancer ce coup-ci. Et c'est vraiment la croix et la bannière. Hein. Franchement, avec tout ce qu'il y a eu sur cette personne, elle est toujours en train d'exercer, je sais pas pourquoi, et c'est incroyable et c'est assez. Franchement, ça me fait très peur parce que je me dis que les médecins, ils peuvent faire n'importe quoi et j'ai aussi, entre guillemets, eu la chance de pouvoir parler à plein de femmes qui ont vécu des choses similaires. Et ça arrive même dans des hôpitaux publics et les hôpitaux vont cacher les dossiers médicaux pour pas se mettre dans la merde, pour protéger les médecins. Mais c'est horrible. Hein. C'est vraiment une boucherie. Et ça, c'est en France. Parce qu'on parle de l'étranger, mais en France, c'est pareil. Parce que moi, c'était en France. C'est un médecin français. Merci. Et les autres personnes à qui je parle, c'est des médecins qui sont en France, les hôpitaux publics en France.
Merci beaucoup, Luna Sky, d'être venue témoigner dans cette émission. Je pense qu'on peut t'applaudir très fort pour t'envoyer du courage dans la suite. Merci beaucoup à toi. On va continuer. Je voulais vous demander à toutes les deux, Ariane et Elsa, est-ce que vous avez une réaction par rapport au témoignage de Luna, que je rappelle, vous avez interviewé pour votre livre?
Oui, en fait, c'est intéressant ce qu'elle dit par rapport au fait qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on n'a jamais pratiqué autant d'actes esthétiques chez les jeunes. Et on a posé la question aux médecins, est-ce qu'on pourra revenir en arrière quand la mode sera passée? Est-ce qu'on pourra retirer les injections? Est-ce qu'on pourra enlever les implants fessiers, etc.? Les médecins nous ont dit qu'ils ne savaient pas. C'est-à-dire que pour certains actes, oui, au prix de cicatrices, pour d'autres, ils ne savent pas, comme les implants fessiers, par exemple. Et nous, ça nous inquiète, parce que ça veut dire qu'on est en train de tester des opérations sur des jeunes et qu'on est donc face à une génération cobaye. Et ça, c'est ce qu'on veut dire aux jeunes. Le corps, en fait, n'est pas un produit. C'est pas un jean qu'on jettera quand la mode sera finie. Qu'est-ce qu'on fera de tous ces corps dans 5-10 ans et comment ces interventions vont finalement en fait, s'intégrer dans le temps et dans leur corps? Et voilà, c'est ça, c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer aux jeunes. Et on aimerait bien aussi que le ministère de la Santé, maintenant que la crise Covid est passée, se saisisse de ce problème qui est un problème de santé mentale et un problème de santé publique et qu'ils se mettent autour de la table avec les professionnels de santé pour qu'on dise qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on opère un jeune de 16 ans ? Est-ce qu'on élargit un pénis alors qu'il est de taille normale ? Enfin, on manque complètement de règles et il faut un consensus.
C'est ce que j'allais vous demander. Existe-t-il un cadre réglementaire d'intervention ? J'ai l'impression que de ce que vous me décrivez, on parlait tout à l'heure d'une industrialisation dans des cliniques... plus ou moins déclaré, non ? C'est quoi ? C'est des médecins ? Il faut être médecin en principe ? Ou alors c'est pas respecté ? Il y a pas assez de... Explique-moi, d'où est le problème légalement parlant ?
Non, oui, il faut être médecin, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, ce que disait Elsa, il n'y a pas de règles. Chaque médecin fait un peu comme il veut. On a notamment interrogé une sociologue qui nous disait, par exemple, il y a 10 ans, aucun n'opérait des jeunes. Et en fait, petit à petit, certains se sont mis à le faire. Et comme finalement, c'était un business, eh ben, il y en a un qui le fait. Bah, s'il refuse de la patiente, il sait très bien qu'elle va aller ailleurs. Donc en fait... chacun fait un peu comme il veut et c'est ça le problème, c'est qu'on manque de règles. Aujourd'hui, il n'y a même pas en France de registre des actes esthétiques. On ne sait pas exactement ce qui est pratiqué, sur qui, et ça, c'est un vrai problème.
J'ai vu aussi qu'il y avait des chirurgiens sur les réseaux sociaux, eux aussi. Là, on parle des femmes et notamment des jeunes femmes, mais on le disait tout à l'heure aussi quelques hommes, mais des chirurgiens aussi qui, sur les réseaux sociaux, parlent de ça. Est-ce que c'est pour faire de la pub pour leurs options ou est-ce que c'est parfois aussi pour faire de la prévention ? Je ne me rends pas compte, c'est quoi le paysage qu'on a ?
Il y a un peu tout, mais de plus en plus, il y a des chirurgiens qui ont des comptes Instagram et qui font clairement la publicité de leur activité, qui postent des photos d'avant-après de leurs opérations, qui vont donner envie. Et ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont le droit d'avoir un compte et de diffuser une information qui est objective, qui est scientifique, mais pas de là à donner envie avec des photos. Et c'est là, en fait, tout le...
Je veux pas dire de conneries, je crois même que c'est interdit. Enfin, on est d'accord qu'un médecin en France n'a pas le droit de faire la publicité pour
des
opérations.
Non, la médecine n'est pas un commerce. Mais en fait, oui, la médecine n'est pas un commerce.
En fait, il joue sur cette... les injonctions, elles sont partout, quoi. Sur les magazines, sur les. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin de la publicité.
Et aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des chirurgiens qui ont des comptes Instagram et qui font ça. Et qui d'ailleurs se félicitent de, pour certains, c'est ce qu'on a pu constater, de, quand ils postent par exemple une jolie photo d'avant-après d'une rhinoplastie, de recevoir dans la foulée 50 demandes de consultation et de se jeter dessus pour ne pas les louper. Oui, donc ça montre bien à quel point c'est devenu un commerce.
J'ai bien l'hypocrisie, je fais juste une photo avant-après pour vous montrer. En fait, c'est une énorme page de publicité.
Exactement.
Voilà, après, pas tous. Hein. Attention, il y a plein de médecins esthétiques et de chirurgiens qui ne sont pas, même pas sur les réseaux sociaux. Donc cette vitrine-là, c'est ceux qui les dérivent. Et c'est vrai que ça, quand même, il faut le noter.
Malek. Sur le plan judiciaire, ça se passe comment ? Pour l'après, justement, on peut pas, on ne sait pas encore si on pourra revenir en arrière sur leur corps, mais au niveau de la justice, comment ça se passe ?
Bah, vous voulez dire si, par exemple, il y a une complication ?
Exactement.
Les médecins ne sont jamais responsables dans leurs actes. Je crois qu'il y a un régime de responsabilité pour les médecins classiques. Est-ce que ça s'étend aux médecins de chirurgie esthétique ? Et si oui, dans quelles
conditions ? Si, ils sont responsables s'il y a une complication. Après, c'est le jeu aussi des assurances. Mais par contre, ce que nous, on a constaté, c'est que c'est le dernier qui a touché... qui peut se voir imputer la responsabilité. Donc, par exemple, quand un jeune a une complication parce qu'il est allé voir une injectrice illégale et qu'il va voir un vrai médecin pour lui dire « j'ai besoin d'être réparé », bah, il va pas vouloir, ou alors, enfin, il va pas vouloir, il va hésiter, parce qu'en fait, ici, ce problème-là, bah, ça peut lui, enfin, ça peut lui, ouais, exactement, il peut être considéré comme responsable. Donc, parfois, ils sont réticents à vouloir intervenir derrière une complication.
Ah, il y a peut-être un petit boulot, effectivement, législatif à faire, là, pour revoir un petit peu le fonctionnement du bordel, parce que ça a l'air d'être un piège terrible, ça. Tu voulais intervenir.
Oui, mais du coup, j'ai oublié. Je voulais parler, par exemple, de ceux qui se font opérer à l'étranger. C'est le vrai problème. S'ils ont des complications en France, ils sont complètement laissés. Et on en a rencontré qui nous disaient, je vais en voir pas mal. Et en fait, ils se retrouvent un peu laissés à livrer à eux-mêmes parce que beaucoup ne veulent pas les toucher de peur d'avoir...
J'ai des potes qui se sont retrouvés blacklistés par la clinique en Tunisie ou en Turquie. Parce que voilà, à force d'appeler, de demander des comptes, ils se sont retrouvés blacklistés. Ils n'avaient plus aucun moyen de les joindre.
Et ce qui est fou, finalement, c'est que dès qu'on parle de chirurgie esthétique, donc voilà, nous ce qu'on dénonce c'est la banalisation plutôt de la chirurgie esthétique, tout le monde a un exemple autour de d'une complication, d'une injection qui a mal tourné, donc voilà, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment lancer cet appel aux jeunes.
On a tout autant de personnes qui ont envie tout de même de le faire,
c'est ça.
L'ai vu là en préparant l'émission et c'est flippant.
Non, mais c'est intéressant.
Enfin,
votre message que vous essayez de faire passer à travers ce livre, vous l'avez dit tout à l'heure, une forme de disclaimer, attention on n'est pas anti-chirurgie esthétique. Alors c'est quoi le message ? C'est attention, faites gaffe, pas n'importe comment, pas trop jeune, c'est quoi ?
Oui, c'est ça, c'est attention, pas n'importe comment, pas trop jeune, et surtout, réfléchissez avant. En fait, on se rend compte aujourd'hui que la jeunesse manque d'informations, qui se jettent comme ça dans les cabinets sans vraiment réfléchir. Par exemple, il y a peu de jeunes filles qui savent que des prothèses mammaires, il faut les changer tous les 10 ans, qu'il y a un suivi régulier. Il faut ne pas oublier que c'est des choses qui peuvent durer des années et sur lesquelles elles vont être... qui sera à vie, quoi.
Et oui, c'est ça, notre message, c'est de dire finalement, posez-vous la question,
est-ce que vous voulez vous faire opérer parce que vous avez un complexe qui vous hante, qui vous empêche de vous aimer depuis toujours, depuis des années, ou est-ce que finalement vous souffrez d'un complexe qui était provoqué par les réseaux sociaux et qui vous donne envie de vous modifier par imitation, parce que quand vous passerez à l'acte, eh bien après c'est irréversible la chirurgie esthétique. Donc il faut bien réfléchir, et nous ce qu'on aimerait aussi c'est que pour les plus jeunes, ça soit pas peut-être interdit au moins 18 ans, ou en tout cas qu'il y ait une consultation avec un psychologue avant de passer à l'acte, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'opérations, trop d'injections qui sont faites de façon précipitée.
Quoi qu'il en soit, les professionnels qui sur Instagram vous disent, font de la pub, etc., par principe, n'y allez pas.
N'allez pas chez un électricien illégal, surtout.
Et c'est ce que j'allais dire, voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'injection illégale dans un appart, t'inquiète, non. J'ai un pote qui l'a fait. Ça, non, jamais. Médecin, diplômé, officiel, machin, truc, c'est la base. Et ensuite, informez-vous. Merci beaucoup, merci. Ariane Rioux et Elsa Marie. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien et que vous avez publié il y a 15 jours. Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Un tonnerre d'applaudissements pour vous. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de Backstreet. Merci beaucoup toutes les deux. Chers amis, on va marquer une petite pause de 10 minutes et après la pause, on va se retrouver avec notre invité politique. Il s'agira de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Moutchou, qui a une actualité particulièrement intéressante qui s'est passée aujourd'hui même à l'Assemblée. Soyez là dans 10 minutes après la pause. Ciao. Merci d'être là, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous qui nous suivez en direct sur Twitch, bonsoir le chat, vous êtes avec nous, bonsoir à vous qui nous regardez en replay sur YouTube, bonsoir à vous qui nous écoutez en podcast, très heureux de vous retrouver pour cette émission Backseat. Nous allons accueillir notre invité politique, mais avant ça il faut que je vous explique un petit peu. Chers amis, comme vous le savez, puisque vous suivez assidûment ma chaîne, n'est-ce pas, dans l'agenda de l'Assemblée nationale, il y a des jours du calendrier qui sont prévus à l'avance pour permettre à des groupes minoritaires de l'Assemblée de défendre leurs propositions de loi. On a déjà eu l'occasion de suivre sur ma chaîne ce qu'on appelle des niches parlementaires dans le jargon. Ce sont ces jours de calendrier. On a déjà eu celle des Insoumis où il y avait été voté notamment l'IVG dans la Constitution. Il y a eu les socialistes, il y en a eu d'autres, etc. Aujourd'hui, c'était la niche d'un groupe minoritaire à l'Assemblée qui s'appelle le groupe Horizon. Ouais. Horizon, c'est le parti... Ouais, super. Il y en a un, bah oui, Horizon. Horizon, c'est le parti politique des proches d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. C'est donc un groupe de l'Assemblée nationale qui fait partie de la majorité et qui, avec Renaissance et avec le Modem, constitue la majorité relative qui soutient Emmanuel Macron. Ce groupe Horizon avait déposé une proposition de loi aujourd'hui pour qu'elle soit examinée et pourquoi pas adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et c'était une proposition qui prévoyait des peines planchers pour les délinquants en cas de récidive, donc en gros une peine minimale qu'un juge doit prononcer s'il y a récidive. Sauf que l'article 1er de cette loi a été rejeté, de pas beaucoup, mais il a été rejeté. Et juste après qu'il ait été rejeté, il s'est passé ça.
Merci Madame la Présidente, et je prends la parole pour vous informer que je vais retirer cette proposition de loi. Et croyez-moi, ça me coûte. J'étais prête au combat. Combat d'idées. Argument contre argument. Conviction contre conviction. J'étais moins prête au coup tordu. Je dois vous le dire, mes amis. J'étais moins prête aux manœuvres. Aux coups de procédure. J'étais moins prête au scrutin public sur des amendements rédactionnels. Quel gâchis, mes chers collègues. Quel gâchis.
Elle est vénère. Elle est surtout vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je vous demande d'accueillir la députée Naïma Moutchou. Bonjour, Naïma Moutchou.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous êtes députée Horizon, donc vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et c'était vous qui aviez déposé cette proposition de vous. C'est vous que l'on vient de voir il y a seulement quelques heures à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la majorité a rejeté une proposition de loi qui vient de la majorité?
Eh bien, nous étions visiblement en désaccord.
Semble-t-il.
Nous étions en désaccord et donc ils ont fait valoir leur désaccord d'une manière un peu particulière puisque on peut ne pas être d'accord sur le fond. Il y a des manières de traiter des groupes dans la majorité. Il se trouve que sur la forme, c'était un peu limite.
C'est-à-dire, ça a manœuvré qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des consignes qui sont passées en disant, je sais pas, dézinguez-moi cette proposition de loi, on n'en veut pas.
Il y a eu beaucoup de fébrilité, je crois. Beaucoup de fébrilité et en réaction, des comportements qui ne sont pas adaptés. Donc effectivement, on a utilisé à la fois des armes d'obstruction, de coups de procédure, comme je disais, parce qu'on a fait des demandes de scrutin public à tort et à travers. On a pris le temps de développer des argumentations dans tous les sens. Une manière de gagner du temps pour ne pas faire adopter le texte à la fin.
Vous êtes
une bordélisation, en somme.
Forme de bordélisation.
Comme quoi,
ça peut venir de partout,
c'est fou. Vous êtes toujours députée de la majorité ce soir, Naïma Moutchou?
Oui, je le suis toujours, puisque je suis membre d'Horizon et qu'à 7h, Horizon est bien membre de la majorité.
Vous avez échangé avec Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron?
Non, parce que ce n'est pas l'usage. Moi, je communique directement avec mon président de groupe, Laurent Marcangeli, puis le président du parti, Édouard Philippe.
Qu'est-ce qu'il en pense, Édouard Philippe?
D'abord, il était très en soutien de ce texte. Mmh. Évidemment, on a échangé. C'était mon initiative, mais on a échangé. Et donc, Édouard, il a trouvé que c'était courageux. D'être allé au bout, d'avoir porté le sujet, parce que c'est vrai qu'il faut un peu de courage politique, c'est pas simple, hein, le sujet de la récidive, le rapport au magistrat. Et donc, d'abord, il m'a soutenu, et ensuite, il m'a félicité.
Léa, les peines planchers pour les récidivistes, c'est un truc qui nous rappelle quelque chose en France?
Nicolas Sarkozy.
Oui.
Le péché.
Non, c'était intéressant. Pourquoi être allé rechercher ça en 2023, finalement?
Alors, peine planchée, pas une marque déposée par Nicolas Sarkozy. Même si les peines planchées de 2007, évidemment, sont estampillées Nicolas Sarkozy. Donc on en parle beaucoup sous cet angle. Les peines planchées, qui sont des peines minimales, en réalité, elles existent déjà. Elles ont existé, elles ont été abrogées, elles sont revenues en 2007. Elles étaient portées à l'époque par la garde des Sceaux Rachida Dati, mais il y a d'autres formes de peines minimales dans le code. Donc ça m'a paru être une bonne idée. Voilà. La récidive, c'est un phénomène qui est difficile à appréhender. Et moi, je me suis dit, il faut à la fois, sur ces sujets, être en capacité de sanctionner. Pas de sanctionner tout le monde, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le phénomène de récidive vis-à-vis des gens qui incarnent l'autorité dans le pays. Donc, sanctionner ceux qui récidivent des agressions contre des pompiers, des policiers, mais aussi des enseignants, des chauffeurs de bus, des gardiens de HLM, des agents de CAF, de Pôle emploi, parce que ça existe. Ça existe dans notre pays, malheureusement. Et puis, il y a tout un pan qui a été occulté du texte. Ce sont toutes les mesures de réinsertion et d'accompagnement. Parce que je crois aussi qu'il faut être en capacité de répondre aux besoins des détenus, les accompagner au retour à la collectivité. Donc voilà, c'était un ensemble. Okay. Et il m'a semblé que c'était calibré, équilibré.
Rejeté, finalement, à cause de toutes ces manœuvres que vous dénoncez. Je mets entre guillemets manœuvres, parce que vous faites état de manœuvres, mais ce n'était pas comme ça que c'est peut-être perçu dans la majorité, en tout cas auprès d'autres députés. Vous venez de dire à l'instant, le groupe Horizon fait encore partie de la majorité pour l'heure. Est-ce que cet événement pourrait signer un désaccord profond qui en viendrait à une scission au sein de la majorité?
Naïma Moutchou.
Oui, non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on est une grande famille. Mm-hmm. Et on est trois groupes dans cette grande famille. Et on est trois groupes parce qu'on a des sensibilités différentes. Et donc, c'est vrai que c'est un désaccord. Un désaccord très net sur un sujet régalien, on n'est pas identique à Renaissance.
Alors, ce n'est pas tant un désaccord sur le fond, vous dénoncez même encore dans la presse, là, cet après-midi, des manœuvres.
Mais bien sûr.
Des coups bas, même.
Des coups bas, bien sûr.
Est-ce qu'on est de la même famille quand il y a des coups
bas? C'est pas juste un simple désaccord, il y a quand même.
Alors, en politique, vous savez, des coups bas.
On en a vu d'autres.
Non, mais sinon, il faut faire autre chose, c'est sûr. Mais ce que je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. C'est pour ça que je dis ça. C'est le désaccord de fond. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le débat d'idées.
Donc c'est un problème idéologique même, vous pensez?
Pardon?
C'est un problème idéologique?
Ah bah clairement.
D'accord.
Ah oui. Il y a une espèce de blocage, une espèce de traumatisme sur ce sujet. Parce que quand les collègues me disaient « mais tu comprends, les peines planchées, c'est des peines automatiques, le juge est délié. » Je dis « mais attendez, mais quand on vote des peines automatiques complémentaire, comme on l'a fait la semaine dernière, comme on va le faire la semaine prochaine, c'est le même process.
Mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui soutiennent Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, par ailleurs. Enfin, qui lui aussi fait du coup plutôt
Sarkozy,
un enfant sarkozien, enfin voilà, qui est plutôt dans la défense d'une fermeté de la justice. J'essaye de comprendre. J'ai l'impression qu'on est au cœur du en même temps et que ça devient compliqué. Du coup, ça m'intéresse.
Moi, je pense qu'on est sur c'est un sujet abrasif. Oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est-à-dire quand on est sur les questions de sécurité et quand on parle de la récidive, ça fait débat, ça fait polémique. Donc, on a essayé d'organiser au mieux ces débats avec nos partenaires de la majorité, en tout cas pour ce qui nous concerne nous. Bon, ben en retour, voilà, on a été accueillis, je trouve, comme un groupe d'opposition. Peut-être moins bien.
Est-ce que ça a été une surprise ? Est-ce que vous y attendiez ? Est-ce que hier matin, en vous levant, ou même ce matin en vous levant, vous vous êtes dit la PPL, je vais devoir la retirer ? Est-ce que vous aviez des signaux faibles ?
Je ne m'attends jamais au pire. Parce que le pire n'est jamais sûr. Mais je commence à m'habituer. On n'a rien à vous cacher.
C'est quoi, c'est une couleuvre que vous avalez ?
Non, c'est pas une couleuvre, parce que ça fait partie des petites aventures, des petits épisodes qui peuvent arriver de temps en temps dans une famille politique. Mais et en même temps, nous, on en prend acte. On dit, bon, bah, très bien, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne reculera pas. C'est-à-dire que nous, on continue de dire qu'on on a eu raison de présenter ce texte d'abord, et d'aller au bout, et de le retirer. On verra quels enseignements seront tirés de l'autre côté.
Justement, c'est la question que je me pose. On parlait des limites du en même temps, de cette majorité fourre-tout, ratatouille, chèque-chouca, appelez-la comme vous voulez. Est-ce qu'on n'arrive pas justement à la limite on va le garder ça, majorité chèque-chouca, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on n'arrive pas à la limite ? Aujourd'hui, vous faites toujours partie de la majorité, mais c'est quoi l'avenir là pour Horizon ? C'est quoi l'horizon pour Horizon ? Dans les prochains mois, dans la prochaine
Joli
année.
Ouais,
merci. Ça méritait pas des applaudissements, c'était pas ouf.
Merci beaucoup. Là, voilà, on voit qu'il y a un problème idéologique. Bon, bah, c'est quoi l'avenir ? C'est quoi la question ?
Mais nous, je dirais que notre chemin, notre parcours, il est le même. Il est le même depuis le début. On ne se construit pas par rapport aux autres, déjà. Mm-hmm. On ne se construit pas par rapport aux groupes de la majorité ou des groupes d'opposition. On n'est pas en réponse à ça. On est tout jeune. Horizon a un an et demi d'existence. On est en pleine construction. Donc, on est sur le fond. Voilà, on essaie de construire un projet. On essaie de raconter une histoire pour les Français. On essaie de se positionner sur les sujets qui nous paraissent utiles. Et ça, c'est déjà un travail qui nous prend énormément de temps. Après, le reste...
Mais ce n'est pas la première fois que le groupe Horizon fait parler de lui dans cette nouvelle majorité particulièrement mise sous pression par son caractère relatif. On se souvient très récemment encore de l'amendement sur les 43 annuités maximum de cotisation au moment de la réforme des retraites. Il y a un moment, il y a un éléphant dans la pièce. Là, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Édouard Philippe.
Faut l'appeler.
Non, mais je sais pas, j'adorerais qu'il vienne nous en parler lui-même, mais c'est un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron aujourd'hui, du gouvernement d'Elisabeth Borne.
Non, mais nous, donc,
honnêtement.
Faites état. Non.
Elle est entre nous.
Il n'y a pas de caméra, on est entre nous, allez.
En off.
Oui, vous faites état, effectivement. On a eu des prises de parole ou des positionnements un peu différents, mais ça, c'est normal. Enfin, nous, on fait de la politique. On a choisi d'être différents. On a choisi de constituer un groupe à part entière. C'était pour faire valoir un certain nombre de convictions.
Ah oui, c'est vrai qu'il vaut mieux servir à quelque chose. Oui, oui.
On se rejoint sur les grandes lignes du projet présidentiel. Ça, on s'est tous engagés là-dessus.
C'est quoi,
là-dessus. Après, le reste,
c'est quoi ces grandes lignes ? C'est quoi ces grandes lignes ?
Les grandes lignes, c'est celles qu'on a défendues depuis 2017. Hein. C'est pas quelque chose de très différent. C'est-à-dire un vrai projet de progrès, un projet qui regarde les sujets en face, quels que soient les sujets.
C'est un peu vague.
C'est un peu vague.
Enfin...
Parce que le diable est dans les détails, donc je vais rester vague.
Okay, parce que j'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi
mais
le projet.
Quel est le projet de
lui en même temps ouais.
Non, je sais pas. Je
ne sais pas.
Et voilà, on est d'accord.
C'est dur à expliquer après 6 ans de pouvoir.
Mais c'est jamais simple. C'est jamais simple à raconter, c'est vrai. En revanche, je vois où se situe Horizon. Voilà. Je vois où se situe
Edouard
Philippe.
Dans l'avenir,
ça c'est... Différent.
Vous voyez où se situe Horizon, oui. Mais vous voyez aussi la conception du groupe Renaissance, qui est le groupe majoritaire dans la majorité, qui ne conçoit pas justement la vision de la majorité comme vous pouvez le concevoir, vous. On est d'accord ou pas ?
On est d'accord sur un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de fond, effectivement, sur lesquels on ne va pas être d'accord. Il y a une manière de faire de la politique sur laquelle on ne va pas être d'accord non plus, c'est vrai. Mais moi, je me reconnais dans la majorité, je me reconnais pas dans la NUPES et je me reconnais pas dans le RN.
On a bien compris, mais là, dans il y a LR entre les deux. Faut pas l'oublier.
On les embrasse. Salut Aurélien Pradier.
J'ai tendance à les enjamber parce que je vois bien que.
Il y a Aurélien Pradier, il y a M. Pradier qui vous regarde, il y a plein de gens qui vous regardent. Non, mais on
a compris que. Ça n'a pas existé longtemps. Hein.
Mais dans la pratique, on conviendra que pour Renaissance, c'est rentrer dans le rang. La majorité, c'est rentrer dans le rang et ne dites rien. Et c'est pas votre vision. Donc à un moment, il y a blocage.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, je vous le dis. On n'est pas des supplétifs de la majorité, on n'est pas des supplétifs de Renaissance. Nous, on a des choses à dire.
Surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui. mais c'est vrai.
Donc, est-ce qu'on peut dire que la majorité craquelle ce soir?
Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de la malédiction Backseat?
Oui.
J'hésite à venir.
On va pas revenir dessus, c'est
chiant. Non, on va pas en parler, c'est ça.
Mais Chloé, qu'est-ce que ça nous dit de la nouvelle configuration à l'Assemblée nationale vis-à-vis de la majorité elle-même, ce qui est en train de se passer?
Moi, ce que ça m'invoque, c'est qu'on parle souvent des dissensions de la NUPES. On dit ils sont jamais d'accord, on prévoit la mort de la NUPES tous les 4 matins.
Non, c'est pire.
Et en fait, la majorité, elle est aussi divisée et elle est aussi morcelée. Non, moi, ce sur quoi j'avais envie de vous interroger, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas simplement membre du groupe Horizon, donc vous êtes parmi les garants du bon fonctionnement de cette institution qui est le cœur de la démocratie représentative dans notre pays. Une première question, déjà, comment est-ce que vous la percevez aujourd'hui, la santé de cette démocratie représentative? Qu'est-ce que vous pensez des autres formes de démocratie directe, participative, délibérative? Et comment vous vous positionnez, en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale, sur la réforme des institutions qui est annoncée par le président, avec notamment le projet de passer à la proportionnelle pour l'élection des députés, voire de réduire le nombre de députés?
Moi, ce que je vois me fait du mal. Bien sûr que la démocratie est malade. Ça me fait du mal, y compris d'ailleurs, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que d'où je viens, être entré au Palais Bourbon, c'est une immense responsabilité et un honneur.
Et c'est d'où vous venez, pour ceux qui vous connaissent mal?
On vient du même département.
Vous êtes un Val-d'Oise?
Exactement.
Ah, c'est exceptionnel.
Moi, je suis d'Argentin, vous êtes
né. Ça va, c'est pas si loin.
Incroyable. Vous étiez à l'école ensemble?
Non.
Ça, c'est quelqu'un de bien.
Les meilleurs.
Attendez la fin de l'émission.
Est-ce que je vais dire la même chose de vous, madame la députée?
Donc je comprends. Donc au temple de la démocratie.
D'où je viens, c'est d'une famille modeste, ouvrière.
Ok.
Parents sont immigrés marocains. Pas les traits, etc. D'où je viens, ça veut dire quelque chose, ça, je veux dire. Je mesure l'importance.
Et donc, ça vous fait du mal?
Et donc, quand je vois le comportement de certains, je suis heurtée dans ma chair, si vous voulez. Ça me fait du mal.
Mais certains, ils ont l'air d'être partout, là, du coup. La NUPES, on en reparlera peut-être sur la réforme des retraites. Là, visiblement, Renaissance de fait sur votre propre proposition de loi, et je comprends que ce soit particulièrement dur à vivre. Le Rassemblement national, tiens, d'ailleurs, joue-t-il le jeu des institutions? Qu'en pensez-vous? D'où vient le blocage? Est-ce qu'un seul camp a l'apanage de la bordélisation de l'Assemblée?
Non, et puis ça remonte à loin, en fait.
En plus.
Ça fait des années que tout ça ne fonctionne pas ou fonctionne assez mal, en fait. C'est ça le problème. Et les gouvernements successifs n'ont pas eu le courage de prendre le sujet à bras le corps. Je crois qu'il faut le faire. Il n'y a jamais eu autant de défiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques. Franchement, c'est très difficile. Et de parler aux citoyens lambda et aux jeunes et de leur dire « venez voter ». Ils n'ont pas très envie de voter. Parfois, je les comprends. Hein.
Peut-être qu'ils veulent faire plus que voter.
Effectivement. Il faut une réforme des institutions, je pense, parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose, c'est vrai. Donc, il faut remettre à plat. Il faut parler de tout, y compris la démocratie participative. Mm-hmm. C'est un des éléments. Moi, je suis favorable au septennat, par exemple. Moi, je suis pour le temps long. Moi, j'aime bien.
C'est
pour
ça unique.
Je suis bien là, je suis à l'aise parce que j'aime bien le temps long. J'aime bien quand on prend le temps de faire et de parler et d'expliquer. 5 ans, franchement, c'est pas assez.
C'est quoi le rapport avec la démocratie participative pour le coup?
Non, c'est un autre.
Ah, c'est autre chose. Oui, d'accord. Okay.
La démocratie participative, c'est très difficile à dire.
Comme les conventions citoyennes, tirées au sort, est-ce qu'il faut pérenniser ça?
Exactement.
Ça sert à quelque chose parce que c'est quand même grosse douille la dernière.
Non mais
c'est vrai. Aucune mesure a été reprise. Déjà, on travaille pendant des mois.
Quelques-unes, mais pas.
Il y a
des choses qui ont été reprises, mais tout ça doit bien s'imbriquer. C'est-à-dire, la convention citoyenne ne peut pas remplacer le Parlement.
Non, mais
il faut
inventer la transition sans filtre.
Non, c'est pas évident.
Mais il ne faut pas qu'elle ait travaillé pour rien non plus.
Mais il ne faut pas qu'elle ait. Je suis d'accord avec vous, ça ne peut pas être de la façade, ça ne peut pas être de l'affichage non plus. Il ne faut pas prendre les gens pour des.
D'accord.
sur la réforme des retraites, je le disais, je voudrais bien vous entendre à la fois en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mais tiens, d'ailleurs, je vais commencer par ça. On en parlait, on a eu l'occasion d'interviewer sur ce même plateau plusieurs députés qui ont participé à ces débats, qui sont venus leur donner leur point de vue, pas toujours le même d'ailleurs, sur ce qui s'est passé. Quel est le regard que porte la vice-présidente que vous êtes sur les conditions du débat à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'article 47.1, c'est le bon véhicule pour discuter d'une réforme aussi importante que celle des retraites?
Good question. Ça n'est jamais la meilleure des solutions, évidemment. Nous, on voudrait que le débat puisse se faire, que les gens s'expriment, que les groupes puissent chacun donner leur position. L'intérêt, c'est quand même d'aller au bout des textes. C'est ce qu'on est censé faire, hein. La fabrique de la loi. En ce moment, c'est un peu la fabrique de pot yaourt, quoi. On a du mal à faire la loi.
Oui, oui, c'est vrai.
On a du mal à faire la loi. Et ça, c'est dommage. Donc, je ne vais pas vous dire, l'article 47.1, c'est... Mais on n'a pas beaucoup de choix.
Je vais vous dire,
la difficulté, c'est que l'obstruction, qui est un choix politique, hein, enfin moi, les groupes font ce qu'ils veulent,
que vous avez
était
subi
annoncée...
aujourd'hui.
Que pardon
oui, que vous avez subi
que
aujourd'hui.
Que j'ai subi aujourd'hui. Fait, ouais. L'obstruction, elle était annoncée. Voilà. Il y a des groupes qui ne voulaient pas aller au bout dans un choix qui leur appartient, qui n'était pas forcément partagé, d'ailleurs, on l'a vu, à l'intérieur de l'intergroupe, mais c'était leur choix. À partir du moment où on dit « on ne veut pas faire voter le texte », il faut bien trouver un moyen, un échappatoire, d'aller au bout. Enfin, je veux dire, c'est notre rôle, à la fin, de voter, ou de ne pas voter, d'ailleurs.
Bah, vous
d'accepter ou de rejeter.
Le 49.3 plutôt que le 47.1.
Le 49.3, il est...
C'est pas beaucoup mieux.
Il est à moitié.
C'est pas beaucoup mieux, mais ça réduisait pas la durée des débats autant qu'avec le 47.1.
Ils peuvent l'utiliser, hein. C'est pas terminé.
Oui, c'est vrai.
Absolument. J'allais dire, il est à moitié sur la table. Hein.
Et ça vous aurait fait prendre un risque politique beaucoup plus grand que le 47.1, où juste vous avez dit, ça limite les débats de fait dans le temps.
Il y a une question.
Si c'est pas voté, c'est pas voté.
L'avantage, c'est que ça peut surtout être pris en ordonnance après.
Ça
vous conviendrait, ça?
Mais non, dans l'absolu, franchement, faire voter la réforme des retraites par vote d'ordonnance, c'est le pire des scénarios.
C'est ce que permet cet article.
Hein. Je sais,
c'est ce que vous auriez
ça reste le pire des scénarios.
Oui, en fait, vous vouliez qu'on aille discuter de toute la loi.
Mais ça, c'est pas si vrai, parce que vous visez un peu la NUPES en disant que certains ne voulaient pas aller au bout de la discussion, mais on a eu plusieurs indiscrétions dans la presse qui nous ont dit que certains groupes de la majorité aussi espéraient qu'on n'aille pas forcément au bout de la discussion.
Oui, peut-être.
Oui.
Peut-être.
Sûrement, mais
totalement même.
Très probablement. Alors totalement, si vous voulez.
Vous, qu'est-ce que vous auriez voté sur l'article 7, par exemple?
Alors moi, il faut que je sois dans les débats.
Mm-hmm. Ah, vous n'avez pas de décision personnelle sur le report de l'âge légal de départ à la retraite?
Tout dépend de ce qui aura été proposé à la fin. Moi, il y a un truc déjà. J'ai dit sur cette réforme, on demande aux Français de faire des efforts supplémentaires, 2 ans de plus. Pour financer un système. Moi, j'ai dit, si à la fin, ça coûte plus cher que les efforts qu'on demande aux gens de faire, ça va me poser un problème. Mm. Parce qu'on aura fait une réforme pour financer qui, à la fin, ne finance pas grand-chose, mais les gens travailleront 2 ans. Mm. Pour ça que je dis, j'attendais de voir ce que ça allait donner, parce que si on commençait à empiler les mesures et que ça nous coûtait bonbon, pour moi, il y avait une vraie difficulté de fond et même une difficulté philosophique.
C'est l'amendement Horizon qui coûtait cher aussi sur les 43 annuités, pas plus. Non,
enfin, on avait un sujet. On avait un sujet.
Oui, non, mais c'est vrai. On a entendu Barbara Pompili, par exemple, qui a annoncé qu'en l'état actuel des choses, elle ne souhaitait pas voter la réforme, qu'elle attendait, comme vous, de voir ce que les débats donneront. Bon, il se trouve que là, malheureusement, les débats, vous allez devoir les regarder sur Twitch. parce que c'est au Sénat que ça va se passer. Ouais. Bon, vous savez d'ores et déjà si vous soutiendrez cette réforme lorsqu'elle reviendra à l'Assemblée, ou vous attendez encore de voir ce qui va être décidé au Sénat?
Alors, je vais vous dire, je la soutiens sur le principe.
Ça, oui.
Parce que c'est dans mon ADN.
Vous êtes dans la majo, ça, d'accord.
Non, mais vraiment, pour le coup. C'est pas un truc. Je verrai l'application. Voilà, je la soutiens dans le principe, mais je verrai l'application. Je verrai ce qui en ressortira au Sénat, au moment de la commission mixte paritaire et au moment de nos échanges avec le gouvernement.
Léa.
Il y a d'autres sujets qui peuvent peut-être créer des désaccords avec Renaissance. Je pensais notamment au prochain texte un peu chaud du gouvernement sur l'immigration. Vous, en 2018, vous avez fait partie des premiers frondeurs, finalement, en vous opposant au délit de solidarité. Et vous aviez
dit à l'époque, on ne peut pas continuer comme c'est le cas aujourd'hui à poursuivre ceux qui agissent avec humanisme. Ça ne peut pas être la conception de la France, en tout cas ce n'est pas la mienne. Le projet de loi annoncé par Gérald Darmanin, qui a d'ailleurs apporté des précisions aujourd'hui, visant notamment à restreindre le regroupement familial, ce qui est une mesure historique, hein, ça n'a jamais existé en France. C'est la première fois qu'on parle de restreindre le regroupement familial. Faciliter les expulsions, etc. Il veut ceux qui travaillent et pas ceux qui rapinent. Vous, vous en faites quoi de ce projet de loi? Vous êtes pour ou contre?
Alors, moi, je ne suis pas encore allée... Vous comprendrez bien que je n'ai pas encore eu le temps de regarder dans le détail ce qu'était le projet de loi. Il ira au Sénat dans un premier temps.
Il est, il commence au Sénat.
Il commence absolument à être débattu au Sénat. Il viendra ensuite à l'Assemblée nationale.
Étonnant comme choix, d'ailleurs. Et...
Bah, pourquoi? Ah oui, non,
parce
oui,
que
c'est
le Sénat
que...
il sera plus favorable, il y aura moins de.
Non, étonnant comme
que...
choix.
Normalement, oui, non, non, ça commence à tomber,
notamment sur l'immigration. Sauf sur là où c'est je obligatoire que ce soit le Sénat, tu vois, genre collectivité territoriale. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune obligation.
Oui, le gouvernement a tendance, les ministres ont tendance désormais, dans les, pour les gros textes, de démarrer au Sénat, qui est en une ambiance un peu plus feutrée, on le sait. Les sénateurs marquent leur empreinte. Quand ça arrive chez nous, c'est déjà un peu plus ficelé, quelque sorte.
Et ça ne vous empêche pas de faire votre travail au demeurant, si vous voulez défaire ce qu'a fait le Sénat, vous pouvez le faire.
Absolument. Okay. Mais ça vient quand même déjà estampiller...
Ils
veulent commencer par la sieste et ensuite par le bouquin.
T'es méchant avec les sénateurs, arrête, on arrivera.
Mais donc, en tout cas, est-ce que
on n'arrête pas de couper la parole.
Sur le principe, effectivement, j'ai compris que vous n'avez pas eu le temps de regarder le texte dans son intégralité. D'ailleurs, c'était un texte assez lacunaire pour le moment. C'est ce que a dit Darmanin en le présentant au Conseil des ministres, en Conseil des ministres. Mais sur l'esprit global de la politique, sur l'immigration qui est menée par le gouvernement, cette phrase quand même qui n'est pas anodine, on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent. Vous êtes d'accord avec ça?
Mais moi, j'ai pas de problème à évoquer les sujets d'immigration et à dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce que fait Gérald Darmanin. Après, il apporte les réponses qu'il apporte. Mais c'est ce que fait Gérald Darmanin. Il y a un sujet d'immigration, c'est vrai. Voilà, il faut qu'on réussisse à en parler et de manière...
C'est quoi le sujet?
Ah ben il y a un problème d'immigration dans notre pays.
C'est quoi le problème?
Le problème, c'est à la fois ceux qui sont admis sur le territoire mais qui n'ont pas vocation à y rester.
C'est que
et en quoi c'est un problème et,
C'est un problème, c'est que vous les voyez dehors. Pour moi, c'est un problème. Les gens ne sont pas intégrés, ils ne devraient
pas
être là.
Si on les voit dehors, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires pour les accueillir dignement.
Mais non, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester.
Mais c'est qui,
moi, je parle pas des...
Qui décide qui a vocation?
Parce qu'il y a aussi cet
autre aspect. Vous parlez des dublinisés?
Ah d'accord, en fait vous faites référence
Je fais référence à tous ceux qui entrent sur le territoire, mais qui ne sont censés pas y rester.
Et censés ou pas censés, c'est déterminé par le besoin d'emploi des filières professionnelles, et c'est ça qui est prévu par la loi
Je parle de la situation aujourd'hui.
D'accord, ok.
Voyez,
mais je ne sais pas ce que ça veut dire avoir vocation ou pas vocation. Enfin,
surtout, alors, en plus, j'ai du mal à comprendre.
Soit
vous remplissez les critères pour obtenir une carte de séjour.
Oui, mais donc les critères, c'est ça.
Exactement, soit vous ne les avez pas. Le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de
gens.
Donc,
vous parlez de l'immigration dite illégale.
Oui,
en quelque sorte.
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a ce débat de la légalisation de ces gens, soit sur des filières professionnelles un peu tendues, et la partie, je crois, que défendra Olivier Dussopt.
C'est ça qui énerve beaucoup les Républicains.
Soit la jambe fermeté sur les expulsions.
Du coup, vous n'avez pas totalement répondu à ma question, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec la philosophie globale du gouvernement qui est de dire on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent, on va à Calais, on défonce les tentes des migrants, etc. Est-ce que
ils
vous,
ça
vous semble
ça.
Normal?
Je ne pense pas qu'ils le disent comme
non,
ça.
Non, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Alors, Darmanin a dit on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Le fait qu'il y ait des tentes de migrants qui soient arrachées, même dans Paris, aux abords de Paris... C'est aussi une réalité, je n'invente rien. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette situation?
Mais c'est ce que je vous dis, je ne suis pas satisfaite.
Non, vous,
je
ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'êtes pas en train de me dire que vous n'êtes pas satisfaite avec la gestion du gouvernement. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas satisfaite avec l'immigration illégale et qu'il y a un problème avec l'immigration illégale selon vous.
Oui,
mais vous n'êtes pas en train de remettre en cause la politique qui est menée par le gouvernement à cet égard. Ça vous semble normal?
Moi,
vous qui avez prononcé en 2018 qu'il y avait un problème d'humanisme.
Mais bien sûr, mais ça n'a rien à voir.
Rien à voir.
Mais non.
D'accord.
Alors expliquez-nous.
Mais attendez.
Expliquez-nous.
Mais ça ne veut pas dire. Mais le délit de solidarité. Donc vous parliez du délit de solidarité.
À l'époque, la loi peut... à les immigrations. Ouais.
Exactement. Ça n'a rien à voir parce que la fermeté. Ce que je veux dire, c'est que la fermeté n'empêche pas l'humanisme. Vous pouvez et dire j'accueille et j'intègre dignement les gens qui en ont besoin et je mets les moyens pour ça, ce qu'on ne fait pas tout à fait. Je le dis. Et de l'autre côté, dire « Je suis navré, vous n'avez pas vocation à rester, vous repartez. »
Ok, d'accord. Sur le côté, je reviens, excusez-moi, sur votre casquette, si je puis dire, de vice-présidente de l'Assemblée nationale. On a évacué un petit peu rapidement tout à l'heure la question de la réforme des institutions. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est en train de revenir. Mais pour ce qui concerne seulement l'Assemblée nationale, je sais que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de dire qu'elle était favorable à un certain nombre d'évolutions dans le fonctionnement de cette institution. Oui. Vous, en tant que vice-présidente, est-ce que vous souhaitez aussi qu'on évolue sur la méthode d'organisation des textes, peut-être pour lutter contre l'obstruction ou à l'inverse pour donner plus de pouvoir au groupe? Comment vous voyez les choses?
C'est un vrai sujet, mais c'est très difficile parce qu'on est dans une configuration effectivement inédite. Il y a 10 groupes habituellement, il y a 4 groupes, 5 groupes. Là, il y en a 10. Est-ce qu'il faut refaire le règlement pour 10 groupes? Je ne suis pas sûre que ça fonctionne parce que tout le monde n'a pas la même vision. Et puis à la fin, une modification du règlement intérieur doit être votée. À la majorité.
Oui, pareil, vous avez raison.
Oui, non, mais vrai. Je veux dire, si c'est que la majorité qui la vote, ouais, ce sera un échec aussi. Je veux dire, il faut qu'on arrive. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive à trouver des consensus sur la manière de.
Et c'est une vraie question parce que le président de la République lui-même appelle à un dialogue interpolitique avec l'ensemble des forces politiques du pays pour discuter de l'avenir de nos institutions. Oui. On voit bien qu'au sein même de l'Assemblée nationale, déjà rien que pour discuter de comment fonctionne l'Assemblée nationale elle-même, ça n'a jamais été aussi galère, en fait, de discuter. Moi, je me souviens de la réforme de 2008, où il y avait une grosse majorité droite, une opposition PS essentiellement. C'était pas facile, mais il y avait que 2 groupes. Donc au final, bon an, mal an, il y avait des discussions, des trucs qui avançaient, etc. Les socialistes ont fini par s'opposer, mais les Républicains ont quand même, enfin l'UMP à l'époque, pardon, a quand même intégré un certain nombre de trucs dans le texte. Là c'est vrai que je vous rejoins dans le côté, avec cette tripolarisation qu'on a à l'Assemblée nationale, beaucoup de mal à imaginer comment vous allez réussir à mettre d'accord tout le monde sur de nouvelles méthodes de débat et de dialogue qui pourtant sont appelées par tout le monde sur ce plateau comme ailleurs.
Oui, c'est vrai. En même temps, c'est l'Assemblée nationale qu'ont voulu les Français, donc il faut faire avec. Hein. Mais alors, il y a de temps en temps des points de convergence. Hein. On arrive aussi quand même en coulisses à s'entendre avec les groupes sur la manière dont on va fonctionner, sur les dépôts de textes, sur quand même des choses qui se passent et qui sont intéressantes et qui vont dans le bon sens. Mais globalement, l'Assemblée nationale n'est pas faite pour accueillir 10, 11, 15 groupes demain. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. On n'est pas censé être morcelé.
Ah mais c'est complètement incohérent parce avec ce que vous, enfin vous faites. Dans ces cas-là, pourquoi vous avez créé Horizon?
Non mais alors.
C'est vrai, vous avez défendu l'inverse tout à l'heure.
Et est-ce que vous êtes favorable à la proportionnelle? Vous n'avez pas répondu tout à l'heure quand je vous ai posé la question. À la proportionnelle, à l'élection des députés.
Je suis pas défavorable à une dose de proportionnelle, oui.
Mais pas la proportionnelle intégrale.
Non, pas la proportionnelle intégrale.
Donc avec un seuil de représentation.
Absolument. De même que je ne suis pas défavorable à la réduction du nombre de parlementaires.
Ouais.
Mais pas par démagogie, pas pour dire les parlementaires bossent pas, c'est pas vrai. Jamais eu une assemblée qui bosse autant. En revanche, moins de parlementaires, d'accord, mais qu'ils aient les moyens de faire quand même leur boulot. Mmh. Parce que de se retrouver avec une circonscription x2, c'est compliqué.
Bah, oui, sur la question des moyens, effectivement. On revient quand même sur cette... vous n'avez pas tout à fait répondu sur non à une Assemblée nationale morcelée, mais oui à une majorité plurielle avec des sensibilités comme celle d'Horizon.
Est-ce que c'est tous les autres groupes qu'on supprime et on laisse ensemble
Oui, bah j'allais le proposer. J'allais le proposer. Non, mais en même temps, je vous dis, c'est ce qu'ont voulu les Français. Donc, c'est certainement une image. Non, mais c'est certainement
une image. Et ça veut dire quelque chose, vous êtes d'accord?
Ça veut dire quelque chose. Oui.
Et vers quoi on se dirige du coup?
C'est un peu inquiétant, mais ça veut dire quelque chose, oui.
C'est pour ça qu'il faut réagir.
Moi, je crois au clivage gauche-droite.
Ah bon?
Oui. Ah, c'est intéressant, ça.
Première fois que j'en
clivage et non pas au... Parce que je vous rappelle quand même qu'un certain Emmanuel Macron a théorisé la notion de dépassement en disant que le clivage gauche-droite, lui, n'y croyait plus et qu'il avait vocation à rassembler les bonnes volontés qui viennent de partout pour travailler ensemble dans un projet de progrès. C'était 2017. Vous, aujourd'hui, Naïma Mouchou, vous me dites non, moi, plutôt clivage gauche-droite, ça a du sens, c'est cohérent.
Oui, c'est cohérent parce qu'on vient tous de quelque part. Quand on fait de la politique, on porte un certain nombre de valeurs et de convictions qui vous placent quelque part. Et c'est important que les gens vous repèrent, d'ailleurs. Besoin de ça.
Et vous venez d'où?
Après, je vais vous dire, en même temps, je n'aime pas qu'on me mette dans des cases. Je n'aime pas les assignations à résidence, voyez-vous.
Vous contredisez.
C'est vrai.
Vous pouvez pas me dire je crois au clivage gauche-droite et ensuite me dire en même temps, s'il vous plaît, Naïma Mouchou, vous venez d'où? Vous êtes où?
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que.
C'est pas une insulte de dire que vous venez de droite.
Non, pas du tout.
Voilà.
Je me sens davantage appartenir à cette famille parce que. Il y a des valeurs qui me parlent davantage, l'ordre, la discipline, mais c'est mon histoire personnelle.
Oui, non, bien sûr, très bien.
C'est comme ça aussi que j'ai grandi, que j'ai été éduquée. Bon. Donc ça me parle davantage, le travail, ça me parle. Bon.
Ça veut dire que l'ordre, la discipline, le travail, c'est à gauche, c'est pas le cas?
Bah non, bah, enfin, c'est, ah bah pas vraiment, c'est des marqueurs historiques de la droite.
Non,
de la
bah, sinon, je...
C'est comme l'égalité, la solidarité.
Oui, l'ordre et la décision. Oui, l'égalité, pas, l'égalité la justice serait plutôt à gauche. Même si je me revendique
mais
aussi au sujet là.
Elle peut être aussi à droite. Non,
c'est ça, enfin, la droite.
Heureusement, d'ailleurs.
Bah, donc voilà, donc c'est, oui, non, c'est donc vous
ça,
êtes d'accord toutes les deux.
C'est pour ça que du coup,
allez-y.
C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà. Mm. C'est pour ça que j'aime pas être assis dans une case. Il y a des sujets sur lesquels je vais être positionnée à droite. Et quand on est sur les sujets plutôt justice et ben voilà, j'ai d'autres réflexes qui me situeraient plutôt à gauche. Vous voyez, moi j'étais favorable à la taxation des super profits.
Ouais.
Mm. Je sais pas où ça me situe ça. Hein.
Et le reste
par
de votre groupe,
France Insoumise, madame.
Ben voilà, vous voyez, bah, c'est ça.
Elle rigole.
Tout arrive ou au MoDem, je ne sais pas.
Au MoDem, oui, c'est vrai, c'est un amendement MoDem, vous avez
ou
raison.
Ou Horizon.
Naïma Mouchou, on va devoir vous laisser y aller, parce que là, vous refilez dans l'hémicycle, ça continue les débats jusqu'à minuit. C'est quoi la proposition de loi là, qui discutait après la reprise?
C'est l'accompagnement des parents qui ont des enfants malades.
Ah oui, c'est vrai, accompagnement des parents.
De mon collègue Paul Christophe.
Merci beaucoup, Naïma Mouchou, d'être venue sur le plateau de Bac. Je vous laisse quitter le plateau, merci. Au revoir à vous.
Merci, merci.
Donc oui, non, normalement, le principe, c'est que nos invités politiques, on les garde prisonniers pour qu'ils jouent avec nous au quiz ouais. à la con, sauf quand ils ont une bonne excuse, genre par exemple, désolé, on doit écrire la loi, désolé, je dois voter des trucs, on peut le comprendre.
Mais je trouve que c'est une très belle conclusion, madame la députée est partie en disant qu'elle était pour la taxe sur les super profits, je trouve que c'est une très
belle conclusion. J'avoue.
Elle est partie vraiment, c'est waouh, exceptionnel.
Sans nous dire pourquoi.
Donc voilà, bah non, mais c'était proposé par le MoDem, effectivement aussi.
Non, mais je trouvais voilà. ça.
Attends, on débriefera l'émission tout à l'heure. D'abord, on accueille la meilleure, la plus belle et la plus forte.
Oui.
On accueille Adèle.
Oui.
Salut Adèle.
Salut.
Ça va?
Oui, ça va. Ça m'a donné plein d'idées, Los Horizonos.
Ça, ouais, j'ai hâte.
Ouais. Non, mais ça sera pas pour ce soir. Mais ça va le public, ça va le chat, tout le monde a encore de l'énergie. Ouais. Alors les amis, on est en pleine période de remise des prix là entre les Césars la semaine dernière et bientôt les Oscars. Eh bien, il y a un prix un peu plus confidentiel, mais néanmoins incontournable en ce moment, qui s'appelle les Backseat d'or. Oh. Je tiens à dire que l'auteur de cette œuvre magique est dans la salle.
C'est qui ?
Il se reconnaîtra.
Pemph.
C'est Pemph.
C'est Pemph, oui. On peut lui rendre ça.
Quel enfer.
Sublime photo.
Quelqu'un a une imprimante 3D. Wow. Vas-y, vas-y.
Donc ce prix récompense les meilleures opérations de communication politique de la semaine. Et alors attention, si c'est la tête de Jean qui est sur cette magnifique statuette, le jury est majoritairement composé de moi-même. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on y aille. Ah, voilà, ouais. Parce que les nominés doivent être fébriles et impatients. Alors je sais pas si on entend la musique. Ouais.
Ah ouais.
Ouais. Yeah. On a fait des effets spéciaux et tout. Hein. Alors, on démarre par le prix du meilleur soutien à la filière viticole française. C'est une récompense collective remise à l'ensemble des députés. Et oui, moult articles de presse hein, parlent de la surconsommation d'alcool ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Et c'est pas que le vin, mais aussi les alcools forts, puisque la première rupture de stock annoncée à la buvette de l'Assemblée nationale, c'était le Jet 27.
Le Jet 27, putain. Nos députés n'ont aucun goût.
Aucun goût. Attends, c'est l'alcool de l'étudiant bourrin qui veut garder son haleine mentholée.
Le Jet 27, c'est trop pratique quand t'as pas le temps de te brosser les dents, tu vois. Genre
mais en pleine journée,
Léa.
Ouais.
Entre deux suspensions de séance, recommandé par les dentistes. C'est de la Listerine, quoi. C'est un bain de bouche.
C'est vraiment un truc d'étudiant, quoi.
C'est-à-dire que c'est un shot avec de l'alcool dedans. Je sais pas comment tu fais, mais c'est dangereux. Non, mais c'est dingue. Enfin, je sais pas, moi ça m'a épaté. Alors après, pour
moi
le,
j'aime
le,
bien, donc je peux
le rapport. toi, tu prends de l'alcool étudiant comme ça, genre, enfin.
Ah, Jet 27, ouais.
Pour pouvoir rouler des pelles à la fin de la soirée.
Mais bah voilà, en toute fraîcheur.
Bon bah on le saura, un cadeau pour Léa. Non mais sur le rapport des parlementaires à l'alcool, après leur lieu de travail s'appelle le Palais Bourbon. Ouais, il y avait des jeunes députés, ils savaient pas. Peut-être qu'il y a eu une confusion, tu vois. Ouais. Alors j'en profite aussi pour remettre le prix de la meilleure idée originale à Malek.
Wow.
Pour la mise en place d'un éthylotest avant les votes, parce que tu as mis ça sur ton compte Twitter. Je trouve que c'était une super idée.
C'est pas une mauvaise idée, j'avoue.
Alors juste question, ça se met en place, comment ? Enfin, je veux dire, c'est un test automatique à l'entrée de l'hémicycle ou est-ce que tu attends de voir des comportements suspects, genre un élu Renaissance qui voterait pour une proposition de loi Horizon ?
C'est exactement dans ce cas que je le pensais, vraiment avec un huissier qui intervient pile à ce moment-là.
Voilà, c'est, tu sens le comportement suspect. Très bien.
Ou alors tu souffles et c'est que si t'es pas bourré que tu peux appuyer sur le bouton pour voter.
Wow. J'ai fait les tests électroniques.
Ouais. Ça demanderait une logistique assez.
Grosse logistique.
Mais c'est pas inintéressant. Ouais,
on parlait avec la présidente qui était là, on aurait pu en discuter.
La French Tech, quoi. La French Tech.
Il aurait fallu lui demander son avis.
J'avoue.
France Relance, tout ça.
Bon, allez, on reprend.
Allez,
on
vas-y,
reprend.
Vas-y, vas-y.
Alors, dans la catégorie. Cette musique, hein, encore. Un certain regard sur l'agriculture, ça a été hyper dur de trancher, hein, tellement les nominés étaient nombreux. C'est-à-dire que là, cette semaine, toute la classe politique était au Salon international de l'agriculture. Tu tapes hashtag SIA 2023 sur Twitter, tu tombes dans une faille spatio-temporelle infinie de photos d'élus qui tripotent des chevaux de trait, des moutons et tapotent des croupes de vaches. Enfin, on dirait Macron dans un vestiaire de foot. C'est,
horrible.
Un peu intense, tu vois. Et alors, ça mange de la charcute et du fromage dès 8h du mat. Du coup, le prix est attribué à Émeric Caron pour son abnégation et son courage. Parce qu'il est quand même, il est député et les filles et antispéciste. Ça veut dire qu'il considère que l'animal ne peut être ni exploité ni mangé puisqu'il est l'égal de l'homme. Et le mec, il va dans le temple du steak et du saucisson.
Ah ouais, ouais, ouais.
Il y est allé ?
Ouais.
Ah bah oui.
Il y avait peut-être une photo, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné.
Ah, moi, je pensais qu'il allait gagner le prix parce qu'il avait boycotté. Par
mais non, il y est allé. Non, c'est...
Ils n'ont pas de photo.
Et autant dire qu'il n'était pas accueilli à bras ouverts. je pense qu'il y allait un peu discretos. Et puis niveau dégustation, tu vois, tu t'emmerdes un peu parce que la filière tofu française, c'est pas... Voilà. C'est un peu comme si Léa allait à une convention masculiniste organisée par Vincent Cassel et Donald Trump, tu sais. Make woman great again, c'est pour te donner une idée.
Ça pourrait être fun.
Mais il y est allé. Alors, j'en profite pour faire un petit quiz sur le sujet du Salon de l'agriculture. Alors, première question. Si on a l'image qui s'affiche, ça serait super. Ah, génial.
Wow,
c'est qui traite la vache? Vous pouvez tous répondre. Hein.
C'est Marine Le Pen.
Marion Maréchal.
Marion Maréchal.
Non.
Yael Braun-Pivet.
Ah, peut-être.
C'est bravo. Alors, mais on sent le spécialiste. Wow. Il est fort, ce genre.
Je les reconnais même capillairement maintenant. Il y a l'enfer.
Eh bien, oui, c'était la présidente de l'Assemblée nationale parce que l'ambiance basse-cour alcoolique de ces dernières semaines devait lui manquer. Ah, non. Ah, oh là là, la régie. Ils ont pris du Jet 27. donc, normalement, là, il y a une photo de Yael Braun-Pivet qui va s'afficher, précisément. Qui va s'afficher. Ouais, ouais. Génial. Alors, où a été prise cette photo? Au salon de l'agriculture ou à la buvette de l'Assemblée nationale? Un indice. Cet endroit, c'est un endroit où ça picole, ça crie des noms d'animaux et il n'y a pas de Jet 27. Ouais, c'est difficile. Hein.
S'il n'y a pas de Jet 27, ça va, c'est plus simple.
C'est quoi? C'est
bah non,
c'est
ça peut être aussi le salon de l'agriculture, il n'y a pas de Jet 27, tu vois, je ne pense pas, quoi. Bon, bref, c'était donc effectivement au salon de l'agriculture. Et enfin, dernière question de ce quiz à la con à moi. À qui appartient cette main?
C'est pas Emmanuel Macron,
ouais.
Macron, ça.
Ouais.
Je reconnais l'alliance.
Pourquoi on reconnaît la main de Macron?
L'alliance.
C'est l'alliance.
Ah, parce qu'on la connaît, la main de Macron.
Tout le monde a cette alliance.
Alors précisément, il y a des spécialistes qui savent que l'alliance de Macron, elle est pas comme ça.
Déjà, il a un chevalier. Il en a deux. Il en a deux.
Il en a deux.
Ah oui.
Je crois que c'est une trois hors de quartier.
Éric Zemmour, Léa, c'est la fameuse spécialiste. Donc non, Éric
Zemmour.
Non, mais ça, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que ça pourrait être la main d'un homme de droite?
Je sais pas, c'est le, je sais pas, le
costume. Pas le costume, le marine, évidemment.
Mais
oui, bien sûr.
Les
vous avez donné un indice. Laurent Wauquiez.
Attendez,
allez, vous porte, Chloé. Allez,
c'est Laurent Wauquiez.
Wow. Voilà.
Ah, je pensais pas qu'il coiffait ses poils comme ça. C'est marrant.
Voilà, Laurent Wauquiez, cette communion avec la nature. C'est pas un peu émouvant, quand même, cette communion-là, dans le hall 4 du parc des expositions. Ça sent la nature.
Putain, mais pauvre bête, quoi.
Bon, alors, je continue. Les Oscars, les mecs, c'est une cérémonie, ça dure 3 heures. Allez, on garde l'énergie. On change complètement de terrain. Cette fois-ci, c'est le prix de la meilleure fiction qui revient à Patrick Balkany pour son témoignage poignant sur son expérience en prison.
Puisqu'on parle de la prison,
oui.
Tous les matins, on m'emmenait avec 4 gardes du corps.
Oh là là. Oui, les gardes du corps de la prison. Hein, bien sûr. Voilà, parce que dans la prison de Balkany, il n'y a pas de gardien, c'est des gardes du corps.
Le petit personnel, finalement.
Mais il n'a pas tout à fait tort, en fait, quand il pense que techniquement, leur job, c'est de garder son corps à l'intérieur de la prison.
Oui, oui.
Donc ça marche. Et d'ailleurs, à l'intérieur, pas tant que ça, parce que là, le mec, il est quand même chroniqueur judiciaire sur CNews. Moi, je ne comprends pas, c'est quoi le... Enfin, on en est où de l'incarcération de Patrick? C'est un grand flou artistique, tu sais, c'est un peu comme Horizon dans Renaissance, justement. C'est les dedans, les pas dedans, et en semi-liberté. Enfin, on ne sait pas. Autre prix, les amis, cette fois-ci, le prix du meilleur montage qui est remis aux jeunes socialistes pour leur biopic sur Jérôme Gage, reçu ici même la semaine dernière.
ce matin, je me rends à la direction de la sécurité sociale.
Et là qui va là ? Et là ça va pas ?
Oh merde !
Oh,
c'est
nul !
C'est vraiment les jeunes socialistes qui ont fait ça ?
Alors, je me suis également posé la question. C'est absolument
mais
les
tu sais, ils ont vieilli depuis, genre.
Vous pouvez le retrouver sur leur Twitter.
Wow. Bravo, oh, les gars.
Wow.
Alors, c'est sûr,
les jeunes socialistes. C'est une série de 1983, hein, qui a
donc 40
ans.
Ça commence à se voir.
Non, mais les jeunes socialistes mentent, ils ne sont pas jeunes. La question, c'est jusqu'où va le mensonge ? Sont-ils même socialistes ? Tu vois, je...
C'est bien.
Non, mais
vrai.
On comprend. En plus, le jeu de mots, gadget, donc c'est très rigolo. Mais
bah, ça a l'air de plaire au chat, hein.
Mais je me demande s'ils ont suivi la série. Est-ce que vous avez suivi la série, Inspecteur Gadget?
Je me souviens plus trop maintenant.
Bah non, c'est vrai, trop jeune.
Ça remonte à loin, ouais.
Mais Inspecteur Gadget, c'était un bolos. Il était complètement teubé. Il résolvait ses trucs que par chance et à l'aide d'une petite fille et d'un clébard.
C'est la petite fille qui était maligne.
C'est pas du tout flatteur comme comparaison.
Fail.
Mais le fail absolu.
Fail maximal.
Je veux dire, attends, c'est comme ça qu'ils traitent le seul mec crédible de leur parti. C'est quoi leur projet? Ils essaient d'avoir un score négatif à la prochaine élection. Je sais pas, c'est hyper flippant. C'est la jeunesse.
Mais y a, peut-être que c'est pas la jeunesse derrière le compte.
Non, mais... bah, je sais pas, mais justement, vraiment, faut se poser
mais
la question.
En tout cas, c'est vraiment pas sympa pour Gage.
Faut mener une enquête. Je sais pas si Gage approuve
il est au courant, faut qu'il. Enfin,
je pense qu'il approuve this message.
Oh merde.
Je pense que c'est coordonné.
Tu crois ?
Faut lui demander.
Je sais pas, on mènera l'enquête, je vous donnerai l'info
on
la semaine prochaine.
Ça se trouve, il a porté plainte, hein, depuis.
Et enfin, le dernier, le grand prix du jury pour l'article de presse le plus suspip de la semaine revient au journal Le Monde avec son article sur le ministre du Travail. Ça, c'était le titre. Olivier Dussopt, l'écorchait de la réforme des retraites, qui pourrait aussi s'appeler Ode à toi, Olivier Cœur de Lion, un combattant de la retraite à 64 ans. Mais c'est franchement, faut que vous le lisiez, hein, c'est un portrait dégoulinant. Mais dégoulinant de sauce barbecue, parce qu'il y a une longue métaphore filet viandarde.
Ah oui, parce qu'apparemment, il mange beaucoup de tartare.
Ouais, hein, Dussopt a un animal blessé. On rappelle que son beau-père est un chasseur de lièvres et de sangliers. Il lui conseillait de ne pas tuer la bête à moitié. On lui dit qu'il est dur au mal, qu'il est dur à cuire, qu'il sait attendrir la viande. Enfin, vraiment, c'est...
Oh là là.
C'est à te faire épouser Émeric Caron, quoi. Vraiment.
Il est sportif, en plus, Olivier Dussopt.
Et ben alors, on va le voir, justement, parce que ça nous permet de découvrir sa petite morning routine.
Ah.
Ouais. Alors, attention, ça, c'est vraiment un extrait de l'article. À 44 ans, il se lève à 5h15 du matin, wow, enchaîne 50 pompes et autant d'abdos jusqu'à 6h30. Suis un régime protéiné à base de sac tartare.
Oh là là.
Ceci dit, 1h15 pour faire 50 abdos et 50 pompes. Ouais. Je sais pas.
Wow. Wow. Ouais, je peux le faire. Hein. Je peux le faire.
Ça envoie.
Ça s'appelle du yoga.
On a essayé tout à l'heure un régime, mais on n'était pas sûr.
Ce n'est pas pareil.
Mais c'est vrai que quand même, le monde essaie de nous faire genre, il est costaud, Olivier, il fait du crossfit, il mange de la barbac. Tu vois, tu lis Le Monde et tu fermes les yeux, tu visualises The Rock, quoi.
Wow.
Mais sauf que là, tu vois, tu regardes et après tu fais genre, il y a The Rock et The Gravier. Bon bref, il y en avait plein d'autres, des dizaines d'autres, des Véran qui nous expliquaient que la grève accélérait, la crise écologique, des Schiappa qui nous racontaient son coup de foudre dans Paris Match. Oh. Fallait choisir, malheureusement, je ne pouvais pas tout raconter.
Bravo Olivier Dussopt, voilà. Il ne manque pas un prix par hasard ?
Ah bon ? Non, je ne crois pas.
Mais si, le prix du meilleur scénario pour Los Republicanos.
Oh.
Applaudissements oui. Pour, quand même pour Adèle.
Je ne m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, je suis tellement contente que cette série puisse, là, mettre en avant comme ça la vie politique française, finalement, et montrer ce qu'elle a de plus beau, hein, l'incohérence et la contradiction. Ah, il y a des nouveaux épisodes en préparation, je vous l'annonce.
Yes.
Je peux en profiter pour dire un petit mot. Ben, Jean, je voudrais te remercier parce que sans toi, rien n'aurait été possible. Et puis, je voudrais. Je vais peut-être en oublier, hein, mais Ricky Ciotito, Don Bruno Retailleau, Aureliano, Mamuse, Donna Valeria, le chargé de com de Donia Valeria.
Il y a la musique,
ils ont la musique, j'ai plus le temps. Merci Vaxit, merci public, merci le modérateur. Je vous aime.
Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup Adèle pour cette chronique La vie d'Adèle et bravo à toutes les personnes qui ont reçu ces merveilleux prix, les Backseats d'or. puisque Naïma Moutchou nous a quittés parce qu'il fallait qu'elle aille faire la loi.
Elle nous a quittés, elle est partie.
Voilà. Oui, non, elle va bien, elle vous embrasse.
Attends, t'as pas vu les journaux de demain encore.
Ah ouais, le curse quoi.
Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Arrêtez avec cette histoire de malédiction. Voilà, les politiques continuent à venir. Vous allez adorer. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, Adèle, tu restes avec nous pour le quiz à la con?
Oui. Avec plaisir.
Allez, c'est parti pour le quiz à la con. Let's go.
La pub à
Le quiz à la con qui va être très difficile à faire pour moi puisque je l'ai pas dans mon doc. Laurent, si tu peux essayer de faire parce que voilà, non mais on a répété l'émission. Ça va vous l'aimez bien cette émission?
Ouais, ça va.
Non, c'est cool.
À la chronique d'Adèle, c'était très cool. J'aimais beaucoup.
Bah, c'était vachement bien.
C'était très bien.
Non, c'est vrai, c'était bien. Bah, j'adore.
C'était très cool.
C'était cool.
C'était mieux que la prestation de Naïma Moutchou en tout cas avant. C'est...
Est-ce qu'on fait des paris sur l'avenir politique de Naïma Moutchou après cette émission?
Première ministre.
Non, avec Doudou président.
Dans le Édouard Philippe président de la République en 2032, Naïma Moutchou première ministre.
Mais comment tu tiens ça d'où?
Mais je de mon cul, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien, j'en pense.
Ah oui, d'accord. Oui.
2032.
Non mais parce que 2027, ce sera le premier quinquennat de
Marine Le Pen.
Non, de Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, d'accord.
Il va faire sa loi sur le nucléaire en 49.3. Enfin, ça va être compliqué, mais
il a dit qu'il arrêtait la politique.
C'est très clair.
Enfin, il a dit faites mieux. Truc dangereux. Oui, ouais. Il l'a dit.
On verra.
Et il l'a dit.
Non, je sais pas, j'en sais rien. Mais mais Naïma Moutchou, en tout cas, je continue à meubler. Hein. Vous avez tous compris que là, j'avais pas encore la question du quiz à la con.
Non, mais je parlais de la malédiction Brexit quand même.
La malédiction Brexit, ça n'existe pas, c'est un leurre.
Merde, j'aurais peut-être dû garder mon quiz à moi pour maintenant. En fait, là, je me dis que.
Ouais, du coup, ouais.
Non, t'inquiète.
De toute façon, moi, je pars pas tant qu'il n'y a pas de quiz à la con. Hein.
Personne ne sort d'ici tant qu'il n'y a pas de quiz à la con. Hein.
En tout cas, je voulais dire que c'était très cool quand il y avait un public qui était nombreux. Parce que ça donnait vraiment de la vie à l'émission. Franchement, c'est un pur kiff. Voilà.
J'essaie ouais, de... C'est clair. Ouais.
Et par ailleurs, ça participe au financement de l'émission, financement auquel vous pouvez participer vous aussi sur le Utip de Jean Massier. Voilà, utip.io/Jean Massier. Vous venez, vous claquez votre meilleur don. Ça nous permet de financer cette belle émission et de rémunérer la vingtaine de personnes, d'acheter du Jet 27, évidemment, pour Léa qui pour en Léa. Réclame à chaque fois. Elle est chiante avec ça.
heureusement qu'il n'y en a pas.
Oui, en vrai, heureusement qu'il n'y en a pas. Mais on a d'autres trucs. On a d'autres trucs, en tout cas. Merci à vous, en tout cas, pour votre soutien. Merci à toutes et à tous. Et je vous rappelle, je vous donne rendez-vous lundi en direct sur ma chaîne pour quelques annonces sur les nouveautés qui vont arriver dans cette campagne de financement participatif. Chers amis, le quiz à la con cette semaine, on commence avec la première question.
Ah,
si la régie, vous êtes prêts, quelle appellation de commission de contrôle de parti politique a réellement existé parmi celles-ci?
Waouh.
On a le...
J'ai rien compris déjà.
Ça s'affiche.
Dans les partis politiques, il y a des commissions de contrôle.
Il y a trop de mots.
Elles ont des noms chelous.
Qui font quoi?
Laquelle,
quoi
parmi ces quatre propositions, a vraiment existé? Réponse A, la connard. Réponse B, la culée. Réponse C, la crétune. Et réponse D, la couillasse.
C'est cool, c'est
magique. Je crois que je l'ai. Hein.
Alors, donc, si vous connaissez la réponse, contrôle, je vous demande de ne pas la hurler. Ouais.
Voilà. Non, t'inquiète.
Qui contrôle quoi, du coup?
On contrôle plein de trucs dans les partis. Tu sais, il y a la commission de recollement, on recolle les voix, on contrôle...
Bah, c'est pour ça que je demande.
On contrôle les adhésions, on contrôle plein de trucs.
La commission... Alors là, il faut réfléchir en fonction de ce que ça veut dire.
La CON.
Tu vois.
Contrôle.
L'acronyme.
Mmh. Ouais.
La commission...
Couillasse, ça n'a aucun sens.
Organisationnel.
Et vous, enfin,
après,
chat,
ça dépend ce qui contrôle.
Et vous, le chat, vous pouvez participer au quiz à la con en
c'est
votant dans le sondage dans le chat
ou
et
précis
en nous disant laquelle réponse selon vous est la bonne.
J'espère juste qu'on pourra cliquer le couillasse. Ça n'a aucun sens de Léa.
La culère.
C'était légendaire.
En fait, il faut.
Ouais. La connard, c'est pas mal.
La crétin.
Putain, ouais. Ils doivent avoir du boulot. Hein.
La commission réglementaire.
Putain, mais t'as la haute fonctionnaire commence à réfléchir en acronyme. Eh, hey, c'est un quiz à la con, on est là pour rigoler, hein.
Commission organisationnelle de...
Bah oui.
Bon, allez, faites vos jeux.
Connard, c'est cool.
Connard, au moins, ça commence par co, comme contrôle, commission.
Le président de la connard, je trouve que c'est cool.
Attends, alors, on prononce ça connaré, pour éviter, hein, les...
Tu nous emmènes
culé, c'est pas mal aussi.
Peut-être.
Bon, crétin, c'est pas mal.
C'est pas mal. Culé, connard et crétin, c'est pas mal.
La culée, je vais saisir la couillasse.
Non.
Est-ce que c'était un parti politique français?
Oui. Ah. Oui, c'est en France. La France du général de
Gaulle. Vous êtes vachement.
T'es content de savoir. Il l'a dit, lui aussi.
Alors, Jean, j'ai réfléchi avant de la faire, mais je vais la faire. Couillasse, c'est une grosse ou une petite commission?
Désolé.
Elle est trop précise.
Désolé.
Elle est trop précise.
Désolé.
La ref est très précise.
J'ai réfléchi et puis voilà, j'y suis allé. Désolé.
Ok, d'accord. Alors, vos réponses.
J'imagine une réunion genre, on se voit plus tard à la couillasse. On se voit plus tard à la Et tu vas à la connard.
Je peux pas venir ce soir, j'ai couillasse.
Ouais, je peux pas. T'as mis quoi lors du jour de l'acculé?
L'acculé m'a tué.
C'est marrant, c'est vraiment, ouais.
C'est la fin de ma carrière politique, c'est sur une culée.
Moi,
j'ai
le côté A.
La connard m'a tué.
Toi, Malek, toi, tu dis la connard. Adèle.
Mais je sais pas, ça me dit quelque chose.
La connard, ça dit quelque chose.
La connard.
Chloé. Moi, la culée.
La culée, réponse B.
La culère, je sais pas.
Léa, t'en penses quoi?
Tout ouais, choix est angoissant, il faut bien le dire. Là, je...
Les résultats de la...
On a décidé ça, enculé. Dans le chat, tiens.
Qu'est-ce qu'elle a dit dans le chat?
Non, mais pardon, mais... Excusez-moi, mais je
veux pas... Oh,
on se retrouve en tout...
Et je ne sais pas.
Je vais enculer. Ah oui.
Oui, évidemment.
On va se retrouver.
Ah, d'accord.
On se retrouve enculé, ça va se passer pour
non,
toi.
Non, c'est bien, ouais.
Attention, ton sang.
Non, mais étant donné que c'est quand même globalement. C'était un parti de droite ou de gauche? Non.
Ah, tu donnes ta réponse, Léa, maintenant t'arrêtes. Hein. Le chat, il a répondu réponse B, la culée. Et toi, tu dis la crétin, réponse C. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, c'était la réponse A. Effectivement, la connard.
Ça me parlait.
C'est dommage.
Eh ouais. C'était la Commission nationale de recours de l'UMP.
Ah.
C'est pour ça?
Ben oui, c'est tu te souviens, ça te rappelle des souvenirs.
C'était le nouveau Coco-E, en fait.
C'était la Coco-E, c'était autre chose.
C'était OK.
C'était encore autre chose.
Mais c'est plus récent,
la Coco-E, c'était la commission de recollement, machin. La connard, c'était...
Non, c'est la Coco-E.
Je vais pas faire l'archéologie de l'UMP, moi.
C'est si, c'était la prédécesseur de la Coco-E.
C'est ça. La connard qui est devenue la Coco-E. Après le congrès de... Non, je déconne, j'en sais rien. Donc voilà, pour ce qui est de la culée, de la crétin et de la couillasse, ça a existé. Non, c'est pas vrai. C'était une invention de Max qu'on embrasse. Deuxième question de ce quiz à la con. La famille de Napoléon est à l'origine de trois des propositions à suivre. Une seule est fausse. Attends, proposition de quoi? Je comprends pas. Ah oui, non, d'idées, pardon. Le FBI, réponse A. La margarine, réponse B. Le groupe Vivendi, réponse C. Le fer à repasser, réponse D. Parmi ces quatre propositions, il y en a trois que l'on doit effectivement à des membres de la famille de Napoléon.
Lequel? Napoléon Ier
ou
Napoléon III?
En même temps, c'était un peu la même famille.
La blague.
Mais bah, peut-être des trucs très très différents en tout cas, hein. Il y avait quand même beaucoup de corps de métier.
C'est un peu, voilà.
Ah, fâche.
La margarine parce que c'est moins cher, ça c'est bien un truc de Napoléon.
Le fer à repasser aussi.
Non, mais ça devait exister avant.
De quoi, le fer à repasser?
Ouais.
Bah, peut-être pas sous la forme que la famille Napoléon a inventée, je sais pas.
Peut-être qu'ils ont inventé une.
La centrale vapeur.
Ouais, ils ont disrupté.
C'est ça.
La plus longue. Ils ont inventé le pipit. Pour faire fuir le chat.
Ouais, mais t'as raison.
Je dis ça, j'ai pas de chat.
Je sais pas.
Ok.
Alors, non, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à dater le gros fer à repasser, effectivement, en plomb qu'on mettait au. Bah, à mon époque, quand j'étais petite, tu sais, là. On mettait le fer à repasser, là.
Ah,
dans
on
le
pas
feu,
le SNU,
hein, directement.
Non, c'est vrai, tu foutais des braises au début dans les fer à repasser. Tu mettais des braises, tu refermais.
T'es bien au courant.
Eh bah, je viens de. Tu sais pas d'où je viens. Je viens pas du tout d'endroit où on utilisait ça, c'est pas vrai. Mais ouais, non, c'est ça.
T'es peut-être un peu jeune aussi.
C'est marrant, mais le groupe Vivendi, on se dit tous que oui, c'est sûr.
Bah ouais.
C'est évident.
Ça paraît évident pour tout le monde.
Peut-être qu'il y a un lien Bolloré-Napoléon Bonaparte. Bah, je sais pas.
Non, mais
je pense que c'est un.
Je sais pas. Je peux en parler très, très librement. Ce n'est plus l'actionnaire d'une émission pour laquelle je taffe.
Ils ont inventé le népotisme.
Tu travailles plus pour l'émission.
Non,
c'est la même
chose.
C'est juste.
Parce que c'est ça, hein.
Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, selon vous, laquelle de cette proposition est fausse, rendant les trois autres vraies, de fait?
Attends, Usul a répondu? Ouais, j'ai vu des gens
il
dire.
Est dans le chat, Usul.
Non, j'en sais rien.
Usul, si t'as une idée, tu peux nous le dire dans le chat, hein. Mais
moi, je dis le fer à repasser. C'est faux.
Le fer à repasser. Réponse D pour Léa.
Ouais, de même le fer à repasser.
Chloé, le fer à repasser. Réponse D. Malek.
J'ai envie de dire C pour le fun. Mais parce que j'y crois quand même un peu.
Bah, les. Ok. On dit bien le truc faux. Hein.
Ouais, le truc faux.
Ok. Donc réponse C pour Malek.
En même temps,
Adèle.
La famille de Napoléon, ça peut être ses aïeux. Donc, ils peuvent avoir inventé le fer à repasser.
Je précise que Pierre-Jean Chalençon ne fait pas partie de la famille Napoléon. Voilà.
Bien qu'il l'espère. Hein, mais je
fait partie des fans.
C'est un délire, quand même.
Adèle, qu'est-ce que la famille de Napoléon n'a pas inventé?
Ouais, le groupe Vivendi.
Le groupe Vivendi oui, répond C pour toi aussi. Le chat,
peut-être.
Vous avez répondu réponse D majoritairement. Eh bien, la bonne réponse, c'est bien la réponse D. Bravo le chat, effectivement. Okay. Le fer à repasser, et bravo Léa et Chloé. Le fer à repasser n'a pas été inventé par un descendant ou un membre de la famille de Napoléon. Toutes les autres sont vraies. En 1869, Napoléon III lança un concours qui visait à inventer un produit de substitution moins cher au beurre afin que l'armée et les populations les plus modestes puissent y avoir accès facilement. C'est ainsi que le pharmacien français Meige Mauriès, vainqueur du concours, inventa la margarine. Le créateur du Bureau of Investigation, devenu plus tard le FBI, c'est Charles-Joseph Bonaparte Patterson. C'était un homme politique américain, mais aussi le petit-neveu de Napoléon Ier. Oh. Et enfin, Vivendi a été fondé par Napoléon III en 1853, à l'origine spécialisé dans les services aux collectivités territoriales. Je ne suis pas sûr que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais voilà.
On a changé de domaine d'activité
oui,
aussi.
En fait, il s'occupait d'eau, de transport et d'environnement au début, sous le nom de Compagnie Générale des Eaux. C'était ça, la Compagnie Générale des Eaux, qui a été créée par Napoléon III, Vivendi, tout ça, machin. Voilà, pour info, l'invention du fer à repasser à résistance électrique est attribuée à Henry W. Seeley en New York en 1882. Donc effectivement, le fer à passer dans sa version électrique avec une résistance qui chauffe.
Mais il faut préciser aussi.
Excusez-nous.
Pardon, mais
c'est pas assez précis.
Excusez-nous, Marie Kondo. troisième question de ce quiz à la con. Pour la journée mondiale de lutte contre le sida, des préservatifs ont été distribués à l'Assemblée nationale. Que pouvait-on voir écrit dessus ?
À voter.
Attends.
Pardon.
Attends, mais ça doit être sur le fil Twitter de Jean Massier.
A, 69-3. Réponse D. Réponse B, débat. Réponse C, érection législative. Oh, ou réponse D, mets-la-moi dans l'urne.
Attends, c'était cette année ?
Oui, c'était cette année.
Cette année ?
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida,
c'est tellement
l'Assemblée nationale a distribué gratuitement des préservatifs dans sa boutique. Et il y avait effectivement écrit des trucs dessus.
J'espère
drôle.
C'est ça, parce que là.
J'en ai fait du coup avec mon chat la source d'un thread Twitter. On a raconté beaucoup de conneries.
C'est ça, ouais.
Mais le but, c'était de vous embrouiller en vous demandant mais il y avait quoi écrit à la base sur les préservatifs de l'Assemblée.
C'est toi qui as participé ou pas ?
Non,
au Brainsto à l'Assemblée.
C'est regrettant de ne pas avoir été consulté que j'ai envoyé à l'Assemblée nationale un thread en leur disant franchement, vous m'auriez demandé. Avec mon chat, on a eu une proposition. Je crois qu'on en avait 150 hein, des propositions débiles.
Ça vient d'une asso, ça vient de la présidence.
Ouais,
non,
merci, parce que ça a envie sur la réponse.
C'est une initiative de la direction de la communication de l'Assemblée nationale.
Okay.
Donc de l'hôtel de la présidence de l'Assemblée nationale.
Oh, c'est la direction de la communication, ils sont perdus dans l'organigramme.
Ouais. D'accord, ils sont perdus tout court. Hein, mais
Il y a une direction de la communication, déjà, je la prends.
Non.
Ouais, enfin bon.
Ah bon ? Il doit faire des flyers, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Vis plus ou moins.
Mets-la-moi dans l'urne, c'est pas possible.
Non,
c'est pas possible.
Je vous en supplie, mais vraiment, je suis prête à croire en Dieu pour que ce soit pas ça, quoi.
C'est sûr que c'est pas ça.
Ça serait peut-être plus au Parlement québécois, tu sais que tu t'envisages ça.
Mets-la-moi dans l'urne.
Non, je pense qu'effectivement, c'est le truc le plus boring des quatre, donc c'est
abominable.
Débat, quoi.
Ça me dégoûte.
69-3, c'est beaucoup, beaucoup trop osé.
Tenez la capote, est-ce que vous êtes prêt pour une érection législative ?
Est-ce que je l'avais gardé le thread quelque part où
Mais même érection législative, ça me dégoûte.
Ça me dégoûte, moi.
Ah non, mais tiens, on dirait la blague du vieux tonton, là, au dîner de Noël.
Horrible.
Horrible.
Cette question me gêne.
Alors finissons-en.
Oui, vite.
Finissons-en.
Ça aurait pu être regardé sur une capote aussi. Finissons-en. On l'aurait plutôt distribué au Sénat pour le coup.
Mais donc du coup c'était ça. Non, mais. Je sais plus où j'ai foutu mon thread, mais on avait raconté. Oui, c'est ça. Il faut conclure, par exemple. Faut conclure. Monsieur le député, faut conclure. Prends-moi dans les cabinets ministériels. Enfin, on avait inventé plein de trucs comme ça. Voilà.
Concluez.
Soumets-moi ton amendement. Soumets-moi comme ton amendement. Enfin, des trucs comme ça. voilà. Du coup, qu'est-ce que vous répondez à la question ? Le chat a répondu réponse B, et vous en pensez quoi ?
Réponse B, moi
réponse
aussi.
B, débat.
Ouais.
Réponse B également.
Réponse B également.
Ouais, aussi, même si
c'est la débat, seule acceptable débat, toi, en réalité. Donc,
c'est la bonne réponse.
Allez, dis la D, Léa. Pour qu'on
non, je veux pas.
C'est la bonne
ça.
Réponse, bravo. C'était bien la réponse B, effectivement, débat. C'était effectivement sur les capotes proposées par l'Assemblée nationale.
C'est cute,
effectivement. Ouais, il y avait aussi des rubans rouges à épingler qui avaient été distribués aux politiques qui l'avaient porté toute la journée. Donc, il y avait deux capotes. La première, c'était débat, et la deuxième, c'était séance de nuit.
Donc voilà.
Oh putain.
Et alors, voilà.
Oh, putain.
La prochaine fois, moi je l'ai dit.
C'est un peu gênant parce que séance de nuit, c'est aussi leur cadeau à la boutique de l'Assemblée nationale. C'est le pyjama pour bébé.
Oui.
Qui s'appelle séance de nuit. Donc c'est un peu contradictoire.
Et vous pouvez acheter la bavette, effectivement.
C'est l'un ou l'autre.
La gigoteuse, la gigoteuse séance de nuit, vous pouvez l'acheter à la boutique de l'Assemblée nationale. Moi, ça fait plein de fois que je dis à la présidence, le jour où on fait un partenariat avec la boutique de l'Assemblée nationale, on peut vous proposer un milliard d'idées, plus ou moins drôles, etc. Pour,
plus ou moins drôles.
Mais l'Assemblée nationale ne veut pas communiquer auprès des citoyens. C'est pas trop son truc. Voilà. Quatrième question de ce quiz à la con. Lequel de ces partis politiques existe réellement ?
Ah, ça j'aime bien.
Réponse A, l'alliance des bourgeois tristement incompris.
Bah ça réponse c'est le parti B, du Jules, non ?
Ouais,
c'est
l'union... l'union des ouvriers consciencieusement flemmards. Réponse C, le parti des élites ouvertement méprisants.
Non.
Ça, réponse c'est D, la coalition des artisans
mais
regrettablement maladroits.
Où en France ?
Waouh.
Je te dirai pas.
Ah ouais, voilà, donc pas en France à mon avis les gars.
Parmi ces quatre propositions,
ça doit être en Angleterre pour que ce soit un truc aussi.
Parmi ces quatre propositions, il y en a un qui existe réellement. Lequel ?
Aussi fait.
Je répète, réponse A, l'alliance des bourgeois tristement incompris. Réponse B, l'union des ouvriers consciencieusement flemmards. Réponse C,
clairement
le parti des élites ouvertement méprisants.
Clairement pas le moral.
Ou réponse D, la coalition des artisans regrettablement maladroits.
Peut-être humour.
Mais les ouvriers consciencieusement flemmards, moi ça me fait penser à la résistance passive pendant le service travail obligatoire pendant la Seconde Guerre mondiale, où grosso modo toutes les usines qui étaient réquisitionnées par les nazis ont forcé les mecs à bosser. Il y avait des techniques mises en place par les ouvriers pour en faire le moins possible, pour bordéliser l'organisation du truc, pour sortir le minimum possible de trucs de l'usine. Et alors, ils étaient très créatifs. Hein. Ils inventaient un nombre de conneries possibles sur « Ah bah non, vous comprenez, on peut pas parce que le marteau... » Enfin, ils inventaient des trucs, c'était le bordel, etc. Donc, il y avait des espèces de strates. Le but, c'était quand même de pas se faire gauler, hein, parce que les nazis savaient très bien qu'ils jouaient au con. Mais le but, c'était de montrer que de bonne foi, bah désolé, la chaîne de production, elle est encore arrêtée. Ah bah oui, on est désolé parce qu'on a eu un problème, etc. Donc, soit c'était effectivement, ils déréglaient volontairement la machine, mais c'était très dangereux parce que s'ils se faisaient gauler, c'était peine de mort. Sinon, ils inventaient un nombre de trucs pour être consciencieusement le moins bossé possible, quoi, pour voilà, pas bosser pour les Allemands, quoi. Moi, ça me fait penser à ça. Mais sinon,
moi, le A, c'est le plus probable quand même.
L'alliance des bourgeois tristement incompris.
Bah ouais, c'est les pigeons là.
Le parti des élites ouvertement méprisant, enfin qui oserait, tu vois.
Ben moi ça me
parle. Surtout qu'en plus c'est un problème d'accord que celui-là est
intitulé comme
ça. De ouf.
Ça nous parle, mais personne n'oserait. Enfin, tu vois.
Je vais juste faire ma Bernard Pivot deux secondes. En fait, c'est un problème d'accord dans la B. Là, c'est le parti des élites ouvertement méprisanteux. Voilà, je.
Ah oui, tout à fait.
Ouais, donc ça peut pas être ça.
Donc bah, ça peut pas être ça. Bah, allez, c'est bon. Donc, mais si, peut-être c'est de la traduction, une mauvaise traduction, parce que c'est pas des partis français.
C'est ça.
Mais
c'est
ça, le truc.
Littérale
ou c'est peut-être juste une coquille, tu vois. Genre, il manque un E.
Faites des dons hein, pour nous aider à faire faute d'orthographe dans les questions du quiz à la con. La coalition des artisans regrettablement maladroit. Non, mais ça, je sais pas, ça peut être la création d'un parti pour se plaindre d'une décision de justice ou un, je sais pas, un artisan.
Regrettablement. Alors, je n'ai jamais vu ce mot. Je m'inquiète. Ouais.
Regrettablement.
C'est intéressant. Autant je regrette, regrettable. Oui, oui, bien sûr.
Ça va, Bernard Pivot.
Ça va, ça va.
Mais c'est regrettable, vous êtes déjà tout seul.
Oui, non, mais bien sûr, mais regrettablement.
Mais je dis ça parce qu'il y a des gens dans
c'est
le chat qui disparaissent.
C'est l'adverbe qui
me surprend.
La chiffonne.
C'est ça.
C'est un peu tout match, regrettablement.
Chiffonnement.
On est dans la chiffonne.
Regrettablement maladroit, ouais. C'est trop recherché. C'est trop. Bon.
Bon, allez, vos réponses.
La B pour moi.
La B pour Malek.
La A pour moi.
La A pour Chloé.
La C.
La C pour Adèle.
Il faut que des gens assument.
Léa.
Moi, je vais demander au chat, puisque le chat n'arrête pas de tricher.
Non, le chat, ils ont déjà voté. Moi, je connais leur réponse.
Bon. Non, je déconne, le chat. B, je trouve ça pas mal. Je trouve que ce serait marrant.
Tu votes réponse B, le chat aussi a voté réponse B et c'est la bonne réponse, effectivement, bravo.
Wow.
Comme par hasard.
Ouais. L'union des ouvriers consciencieusement flemmards. C'est un parti.
J'essaie de nous aider quand même. Hein.
C'est un parti satirique qui a vraiment existé et qui a même présenté un candidat, l'union des ouvriers consciencieusement flemmards. C'était la traduction approximative de Union of Deliberate Work Avoiding Elements.
C'est un
parti politique formé en 1879 à Aarhus au Danemark par un comédien du nom de Jacob Hogard. Il a été élu au Folketing, qui est le parlement danois. Il a remporté un siège, donc proportionnel intégral là-bas, je crois. Ça a été une grande surprise pour le parti qui comprenait des promesses d'amélioration de la météo, des cadeaux de Noël, plus de meubles de l'époque Renaissance disponibles chez Ikea. Et plus de pain pour nourrir les canards dans les parcs.
Ah oui, donc en plus, rien à voir avec le titre, le nom du parti.
Non, c'est un comédien qui a, et c'est ça la magie, du scrutin proportionnel intégral, c'est que tu peux avoir un siège avec ce genre de parti. Et donc ça a vraiment existé. Dernière question de ce quiz à la con, chers amis. Laquelle de ces informations historiques est vraie ? Réponse A. Al Capone s'est présenté aux élections municipales à Chicago. Réponse B. Pablo Escobar a été député suppléant. Réponse C. El Chapo a été conseiller d'un ministre. Ou réponse D. L'empereur Palpatine a participé à l'écriture de la réforme des retraites.
C'est la B, je crois.
Tu penses ?
Bah, il a été député suppléant et ensuite, celui qui a été élu député à sa place a renoncé, dans ma mémoire, pour le laisser devenir député. C'était une espèce de tour de passe-passe, je crois, hein.
C'est pour ça que je vous demande de ne pas donner la réponse quand vous la connaissez. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave.
Mais attends, ça veut dire qu'il n'a pas été que député suppléant, il a été député tout court, du coup.
Il a siégé. Bah, du coup, c'est bon.
Bah voilà, allez.
Réponse, voilà, c'est bon. C'est la réponse B. En 82, Pablo Escobar a été élu au poste de député suppléant. Pour y parvenir, il a financé des infrastructures destinées aux plus démunis. Il n'a pas hésité à agresser la patte de plusieurs organes de presse. Son objectif, c'était d'éviter l'extradition vers les États-Unis en bénéficiant du statut de député et donc des lois machin. L'élection a quelques temps plus tard été invalidée pour financement illégal. Tu m'étonnes. Genre littéralement l'argent de la coke. Et voilà, vous connaissez la suite de l'histoire d'Escobar. Mais effectivement, Pablo Escobar a siégé une fois, je crois, à une conférence plus ou moins inaugurale en début d'année au Parlement colombien. Mais voilà. Mais non, Al Capone. On a vérifié quand même avant l'émission parce qu'on a eu un doute. Al Capone n'a pas été candidat à la mairie de Chicago, mais ça aurait complètement pu être le genre de truc qu'Al Capone serait capable de faire. Il était plutôt du genre à se montrer, en plus, Al Capone.
Je pensais que c'était ça.
Il a fait des trucs de charité et tout. Donc je me suis vraiment posé la question quand on a préparé l'émission. Voilà. El Chapo n'a jamais été conseiller d'un ministre. Quant à l'empereur Palpatine, il y a encore des doutes. Mais,
t'es sûr de ça ?
A priori, il a. Non, il n'aurait pas trop participé à la rédaction de.
On ne nous dit pas.
Du coup, ça se passe comment par rapport au comptage de points ? Comment on compte les points là, du coup, comme
Eh bah, c'est une question qui compte pour du beurre, c'est pas grave.
On a tous un point ?
Non, commence pas à négocier, toi. Hein. voilà, c'est la fin de ce quiz à la con. Merci, bravo à tous, c'était trop bien. Merci, bravo le chat. Le chat qui a eu plusieurs fois la bonne réponse, bravo à vous. On va conclure cette émission comme d'habitude, comme de tradition, avec un petit débrief, un petit moment tranquille. On n'est pas obligé de cutter de manière... Non mais reste avec nous Adèle, ça nous fait plaisir. Du coup c'était chouette cette émission, je suis content de vous la représenter. J'espère qu'elle était chouette pour vous. Très content d'avoir fait un before avec des gens qui fabriquent l'émission. Ça y est, vous avez vu leur tronche, vous avez vu comment ils sont beaux et comment elles sont belles. Voilà, on a parlé avec vous de la modération, du montage des émissions et des VOD de leur disponibilité. Vous avez rencontré Quentin, mon coproducteur avec François, avec qui on organise toute cette belle émission. J'espère qu'on pourra continuer à vous présenter les visages des personnes qui préparent cette émission, y compris la formidable équipe technique qui travaille en régie, etc. Et puis toutes les personnes qui interviennent dessus. Le reste était chouette, ça vous a plu ?
Oui.
Malek ?
Je voulais parler du témoignage de Luna Sky qu'on a eu sur la partie chirurgie.
Ouais, t'en as pensé quoi ?
J'ai trouvé ça hyper touchant.
Bah grave.
Et j'ai vu un truc dans le chat et aucune lèche ici, mais il y avait un côté Jean-Luc Delarue dans le témoignage, vraiment.
Dans mon animation.
Dans ton animation.
J'ai vu le commentaire.
À un moment, j'ai voulu intervenir et puis j'ai dit, en fait, non, Malek, ferme ta gueule parce que son témoignage, en fait, il était hyper touchant et il faut donner un maximum de visibilité à ce témoignage-là qu'elles sont peu chez. Ils et elles sont peu chez les influenceurs, influenceuses. À alerter et avoir cette conscience-là.
Non, je suis d'accord avec toi, c'était un témoignage chouette. Je suis content qu'elle ait accepté Luna de venir témoigner. Les deux journalistes qu'on a reçus aussi, super intéressantes, leur livre a l'air vraiment passionnant. Pendant cette séquence-là, j'ai vu dans le chat passer quelqu'un qui disait on regarde pas Backseat pour entendre parler de chirurgie esthétique.
Pareil, il disait que c'était l'équipe parce qu'on parlait de l'affaire Le Graët alors que c'est éminemment politique. Enfin bon.
T'as dit éminemment politique. Ah. C'est que c'est ban word maintenant.
C'est banni.
C'est la règle du Jules. On n'a plus le droit de dire éminemment politique.
Essayez de ne pas dire politique après le mot éminemment. C'est la règle.
Ah,
c'est
du Jules.
Ouais, c'est Jules qui nous impose ça.
Non, mais voilà, voilà. C'est important aussi. Je pense
non, mais bien
tout
sûr,
est
oui,
politique
t'as raison.
En réalité.
On reviendra, promis, on reviendra sur le Conseil d'État, sur l'article 7, 47.1. Je sais que vous adorez ça. On reviendra dessus. Mais parfois, c'est aussi ça, Baxit, quoi. On parle d'autres sujets et puis ça nous permet de rappeler de la politique. Et j'ai l'impression qu'on ne s'est pas foutu de votre gueule avec ce sujet sur la chirurgie esthétique. Enfin, c'était pas trop lifestyle, je trouve, comme émission. Enfin, bon, voilà. Enfin, je trouve.
Après, c'est pas lifestyle, c'est un problème de santé publique, bah, de santé mentale. Ça dit quelque chose c'est de clair. L'état de la jeunesse. Et puis, on parle d'un business organisé, quoi.
Et puis, ça dit qu'on vit dans une société.
De la honte, de la. Ouais.
Et qu'il y a une réponse politique qui peut être apportée en face et que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'était l'occasion.
C'était un cri d'appel aux législateurs pour qu'ils se saisissent de l'enjeu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc non, moi j'ai trouvé ça très chouette, effectivement, sur les actus de la semaine. Putain, ça fait du bien. Excusez-moi, pardon, je fais quand même une parenthèse. On n'a pas parlé de la retraite, la réforme des retraites.
Bah un petit peu avec notre invité politique
après, mais dans les actus de la semaine, c'est peut-être la première émission depuis 5-6 émissions que c'est pas le sujet numéro 1. C'est bien aussi parfois de parler d'autres choses. On reviendra sur la réforme des retraites, évidemment, parce que ça continue à être le gros dossier de la rentrée. Mais c'était l'occasion de parler du SNU. Je précise, c'est les chroniqueurs qui ont voulu foutre des casquettes et des t-shirts avec
vous
le logo du SNU.
Si beau.
Vous étiez incroyable.
Merci. J'espère qu'on aura au moins une photo.
Pour répondre au chat, j'ai bel et bien envoyé la photo à Sarah El Haïry.
Et alors,
qui a lu le message mais qui ne m'a pas répondu.
Ah, elle t'a laissé en vue.
Voilà. C'est peut-être. T'as vu les trois points qui s'affichaient.
J'enlève mon mot d'avion. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une réponse entre temps.
Je précise que c'était évidemment pas les casquettes officielles du SNU. J'espère que.
Ah non, mais faut pas le dire, Jean.
Mais attends, c'est agrafé à la ZOB. Les gens l'ont bien vu.
Bah non, on voit pas à l'image.
Non.
Ce sont des casquettes Kiabi. Voilà. Et on peut remercier. Les coproducteurs de cette émission.
Qui sont allés les acheter chez Kiabi.
Qui sont allés courageusement chez Kiabi.
Faites des dons hein, pour qu'on continue à acheter des costumes. C'est des casquettes SNU.
Et des agrafeuses.
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je n'ai pas autre chose à dire.
On a reçu Naïma Moutchou.
Naïma Moutchou, vice-présidente de l'Assemblée. Je suis très content qu'elle soit venue parce que au cœur de l'actu du jour, alors là, on ne pouvait pas perdre le show, hein, vraiment. On vous a montré les images. Ça s'est passé en milieu de matinée, je crois, ou en début ou au moment du déjeuner. Cette colère froide de Naïma Moutchou, applaudie par le groupe Horizon lorsqu'elle parle du gâchis et des manœuvres de la part de Renaissance en cité, des coups bas, etc. Le seum intersidéral et tout. Donc très content qu'elle soit venue discuter avec nous de ça. Comme quoi, c'est aussi le bordel dans la majorité, pas qu'à la NUPES.
Et
là aussi, il y a la langue de bois, il y a du non, ce qui compte, c'est l'unité, machin.
On n'entend pas assez dans les médias.
Mais non, mais c'est vrai.
Les lignes de fond sur lesquelles nous sommes toutes et tous d'accord, oui.
C'est aussi ça.
Dans le projet de progrès, Léa.
Oui, je suis con. Ah oui, le train du futur, c'est ça. Putain, le train du futur.
Donc voilà.
Après, elle a pas 100% répondu à nos questions, j'ai trouvé, sur l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite, sur la proportionnelle, sur la réforme des institutions, etc. Elle était un peu hésitante sur la question de l'immigration. C'était un peu gênant.
Et en montrant qu'elle laissait de la place à la discussion, justement, parce qu'elle attend elle-même d'être convaincue, preuve que, encore une fois, enfin, ça disait aussi quelque chose, ça. Son refus de dire clairement je soutiens la réforme et je la voterai quoi qu'il en soit, c'est aussi la preuve que le gouvernement a aussi maille à partir au sein de sa propre majo pour convaincre tout le monde. Et encore, je pense que c'est les modems les plus relous là-dessus, mais c'est aussi ce que j'ai voulu soulever en disant que Horizon a déposé des amendements relous et que le gouvernement aussi était bien content de ne pas aller jusqu'à l'article 7 parce que ça aurait obligé des prises de position dont peut-être le gouvernement n'avait pas envie au sein de sa propre majo.
Ils ont déposé le même que Pradier.
Ils ont repris la proposition de Pradier. Je ne sais plus quel membre du gouvernement avait fait un indiscret dans la presse en disant merci les insoumis, grâce à vous, on n'est pas allé jusqu'à l'article 7 parce que putain, ça aurait fait exploser une partie de la majo. Je ne dis pas ça pour mettre une couche sur la France insoumise, c'est juste qu'il n'y a pas que la France insoumise au Parlement, il se passe plein de trucs aussi de l'autre côté de l'hémicycle. Et donc voilà. Donc c'était chouette en tout cas de recevoir Naïma Moutchou. Encore une fois, ses réponses lui appartiennent, nous ne sommes responsables que de nos questions. Merci à vous le chat. Où est-ce qu'on vous retrouve, attendez-vous, avant de se quitter? Malek, bientôt sur Internet, tu l'as dit.
On a parlé Instagram, bientôt YouTube, TikTok aussi, je fais des petites danses et tout, c'est sympa. Sans les filtres, j'annonce. Voilà, et toujours un plaisir de venir. Merci Jean, merci à tous, merci le chat, merci le public, merci tout le monde.
Merci à toi. Chloé, on te retrouve quelque part
partout,
bientôt.
Moi j'ai pas d'actu flamboyante pour cette semaine, mais
tranquille, et on te revoit bientôt sur le plateau de Backseat. Léa, tu disais que tu es en train de travailler sur un nouveau livre. Prochain épisode de Popol, ton podcast.
Là, j'ai fait une pause de 15 jours, donc semaine prochaine, et en librairie. Hein. Retrouvez-moi en librairie.
Ouais, effectivement, oui, pour plus de femmes en politique, mon premier livre qui est toujours disponible en librairie. Adèle.
Moi, je fais des blagues sur les Instagram aussi. Et à nouveau à l'Académie du Climat le 24 mars, si vous voulez venir.
Eh bien, très bien. Donc, le 24 mars à l'Académie du Climat, je précise, c'est à Paris.
Voilà, Greenwashing Comedy Club, ça s'appelle.
Le Greenwashing Comedy Club. On te retrouve sur ton Instagram, Adèle Barbers.
Exactement.
Et moi, je vous retrouve dès lundi pour des annonces sur le financement participatif. C'est la fin de cette émission Backseat. Merci à toutes et à tous. Bye bye, salut.